c'est Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Bonjour à tous, il fait chaud, il fait beau sur la route du Tour, mais ça c'est pas une nouveauté. Depuis le départ de cette grande boucle en Corse, pas une goutte de pluie pourvu que ça dure. Mais c'est vrai que c'est bien parti. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons vous commenter la 14e étape de ce Tour de France. La dernière étape de la longue diagonale nord-ouest-sud-est. Car demain, eh bien, demain, le peloton sera à nouveau au pied des montagnes. Et notamment ce Mont Chauve, le géant de Provence, le Mont Ventoux qui fait peur à tous les coureurs du peloton et qui en revanche ravit les suiveurs que nous sommes. Ils sont là avec moi pour vous commenter cette course. La bande de l'Intégral Tour a commencé par Cyril Guimard, notre druide, en position commentateur dans sa tour d'ivoire. Salut Cyril. Voilà, comme d'habitude, il n'est pas là. Frédéric Adam, lui, est bien là à mes côtés, en pleine forme. Salut
bien
Fred.
Bien sûr, ils sont arrêtés, les anciens.
Hein. Ah ben oui, la chaleur, c'est pas bon pour les anciens. Hein. Hein, ça tape sur la tête du druide, ça, il aime pas. Puis il est 14h, c'est trop tôt. C'est l'heure de la sieste. Normalement, 15h, ça va. Il est plus en jambes. La moto RMC, elle est là, elle aussi. Ben oui, elle est là, elle est revenue. Elle est là depuis hier, en pleine forme, avec Marco, notre pilote émérite. Et derrière, notre jeune grimpeur colombien, Jorge Quirino. Salut Jorge.
Salut Christophe, bonjour à tous. Et pour Cyril, au bout de trois no shows, normalement c'est suspension. Hein,
oui.
Pour le début de l'émission.
Ça fait un moment qu'il serait suspendu à vie. Ça fait un moment qu'il serait suspendu à vie, parce que les no shows, il nous en a fait quand même quelques-uns depuis le début. Et puis le reste de l'équipe nous rejoindra tout à l'heure. Lucho est à la pêche et à la chasse au sandwich actuellement. Pierre Hublerou est en train d'essayer de réparer sa voix pour nous chanter quelques belles chansons comme il le fait tous les soirs. C'est notre barde breton. Et puis Pierre Hickton, lui, est en train de brasser à l'arrière de la course. Allez, on va s'intéresser à cette course justement, c'est la 14e étape aujourd'hui et c'est le premier top course de la journée. Fred, c'est parti.
RMC Top Course.
Étape longue de 191 km aujourd'hui et il en reste 120 sous le soleil de la Loire puis de la Saône-et-Loire. Un gros groupe est à l'avant de la course, sans grand favori évidemment. On annonce une journée de transition, mais on n'y croit plus beaucoup après ce qui s'est passé hier, notamment sur ce tour de toutes les folies. 18 coureurs à l'avant de la course, donc à 120 km de l'arrivée, avec 4 Français. Arthur Vichot, le champion de France, est accompagné notamment de Blaise Cadry de l'équipe AG2R, Cyril Gauthier chez Europcar et Julien Simon pour la formation Sojasun. On trouve là également des coureurs aussi expérimentés que Jens Voigt, Lars Bak, David Millar ou encore Michael Albazini, mais aussi le mieux placé au classement général, le jeune américain Andrew Talansky de l'équipe Garmin. Il est à 13 minutes du maillot jaune Chris Froome ce matin et c'est peut-être pour cela que l'avance est plafonnée en ce moment à 56 secondes seulement à 120 km de l'arrivée. Ce gros groupe d'échappés ne parvient pas à creuser.
Ah oui, ouais, il faudrait peut-être se débarrasser de Talansky, lui faire un coup de bordure à ce Talansky pour que cet échappé puisse enfin aller au bout. Les échappés qui vont au bout, on les compte sur les doigts d'une main et sur les doigts de rien du tout, puisqu'il n'y en a eu aucune qui n'est parvenue à ses fins depuis le début de ce Tour de France. Sait-on jamais aujourd'hui dans cette étape assez accidentée. On va y revenir dans quelques instants. Auparavant, eh bien, on va prendre la température, une petite carte postale de la France. On aime bien le faire ça avec la moto, avec Georges qui donc est à l'avant. Et toujours autant de monde sur le bord des routes. On sent que la France est en vacances, Georges.
Oui, exactement. On est dans la Saône-et-Loire depuis quelques kilomètres. On va rentrer dans la commune de Saint-Julien-de-Jonzy. Et c'est vrai qu'il y a énormément de monde encore aujourd'hui sur les bas-côtés de la route et notamment sous les arbres. Hein. On a passé une forêt il y a quelques instants. C'est là où il y avait le plus de monde. On cherche des coins d'ombre aujourd'hui parce qu'il fait encore très chaud. On annonce un petit peu plus de 30 degrés. Et on a pu voir, comme lors de notre passage dans les Pyrénées, et bien voir certains bouts de route, le goudron en train de fondre, ça sentait fort le goudron, donc ça témoigne un peu de la chaleur encore aujourd'hui. Donc on a sorti les parasols, les shorts et les bobs pour le public sur le bord de la route. Derrière nous, le groupe de 18 échappés où il y a énormément de coureurs représentés. On voit assez largement le maillot bleu blanc rouge d'Arthur Vichot souvent se positionner à l'avant de ce groupe, mais c'est vrai que derrière ce groupe de 18 qui essaie de collaborer, on voit une longue file de voitures de tous les directeurs sportifs qui suivent cette échappée et l'avant-garde du peloton qui n'est n'est pas loin, ce peloton qui, eh bien, depuis le début, joue au chat et à la souris avec les échappés, qui ne veut pas laisser partir ce groupe beaucoup trop loin.
Merci Georges, on te retrouve tout à l'heure. Évidemment, tu interviens dès qu'il se passe quelque chose à l'avant de cette course, mais évidemment, on a plutôt l'impression que ce groupe va être repris dans quelques instants. On va faire une deuxième tentative, Fred, on va voir s'il est sorti de sa sieste. Monsieur le druide.
Oui, oui.
La sieste est terminée.
Mais bien sûr qu'elle est terminée, puisque j'ai même pas eu le temps de la commencer, puisque je pensais qu'on attaquait le direct, moi, à 15h d'un seul coup. Non, c'est 14h. Ah, j'avais oublié qu'on était le samedi et que nous, c'est le samedi et le dimanche que le druide travaille le plus.
Eh oui, les forçats de la route, c'est ça, Cyril. Qu'est-ce que tu veux? Ça va, Cyril?
Les forçats de l'antenne, oui.
Les forçats de l'antenne, oui. Et de la route aussi, on fait un peu de route, nous aussi. Mais bon, évidemment, pas en pédalant. Cyril, situation de course, on l'a vu, avec ces 18 hommes en tête, mais leur avance ne cesse de décroître. Fred le disait il y a quelques instants, le problème c'est qu'il y a dans ce groupe un garçon qui est dangereux au classement général et aussi au classement du meilleur jeune. C'est Andrew Talansky qui est troisième, je crois, dans ce classement. Et évidemment, avec un garçon comme ça dans l'échappée, c'est la mort programmée des baroudeurs.
Hein. Oui, et puis on l'a pu le remarquer, ils sont 18 dans l'échappée, mais en fait il y en a que 6 ou 7 véritablement qui prennent les relais. Et donc à partir du moment où vous n'avez que 6 ou 7 coureurs sur, on va dire, pratiquement la moitié de l'échappée qui ne collabore pas, et pour les raisons que vous avez d'ailleurs évoquées, il y a un coureur qui est trop près au classement général, non seulement au classement général sur le classement général, mais également sur le classement général des moins de 25 ans. C'est beaucoup trop, donc beaucoup de coureurs ne roulent pas. On a pu remarquer par exemple aussi que les équipiers des sprinters ne roulent pas non plus, donc cette échappée va avoir beaucoup de mal à se développer.
Je ne suis pas sûr, Cyril, que la présence d'Andrew Talansky soit en ce moment le principal obstacle à l'échappée, à son développement en tout cas, puisque ce sont depuis de nombreux kilomètres les maillots orange de la formation Euskaltel qui roulent, qui n'ont pas grand chose à défendre au classement général.
Oui.
Ils ne sont simplement pas représentés. Ils ont bien compris qu'en cas d'arrivée au sprint, les Basques, ils étaient totalement battus, ils n'avaient pas de coureurs à la hauteur. En montagne, Igor Anton, le leader, le petit grimpeur basque, a bien compris que...
Il est passé par la fenêtre hier.
Voilà, hein. Il fallait se rabattre sur d'autres objectifs.
De même que Nieve, c'est-à-dire leurs deux leaders sont passés par la fenêtre hier.
Exact. Et donc, c'est sur ce genre d'étape, avec pas moins de 7 difficultés, on a des côtes de 4e et 3e catégorie, mais c'est sur ce genre d'étape que les francs-tireurs basques peuvent se mettre en évidence. Et apparemment, pour eux et pour leur directeur sportif, il n'est pas question, à 115 km de l'arrivée, que ce groupe de 18 où ils n'ont aucun représentant prennent le moindre champ.
D'accord, donc ils veulent les rattraper et ensuite pourquoi pas tenter une contre-attaque avec un joueur de la formation Euskaltel. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'équipes, Cyril, qui n'ont pas décroché le moindre succès depuis le début de ce Tour de France. Il y a la montagne qui arrive à partir de demain, la troisième semaine va vraiment être réservée aux spécialistes et certains ont vraiment intérêt aujourd'hui à décrocher un bouquet. On pense également aux Français parce que les Français sont aux abonnés absents.
On en fait partie. Hein.
Oui. Mais les Français sont vraiment aux abonnés absents depuis le début de ce Tour de France. Autant l'année dernière ils nous avaient régalé, autant cette année on a de quoi être un peu inquiet quand même.
On n'est pas arrivé à Paris encore, hein. Ils pourraient nous régaler dans cette dernière semaine et pourquoi pas à partir d'aujourd'hui. La course reste quand même très ouverte, mais les Français sont, j'ai envie de dire, marqués psychologiquement par différentes défaillances ou carences de leaders français que l'on attendait à un autre niveau. Et puis bon, il faut quand même le dire, il y a 4 sprinters qui ont remporté les étapes au sprint qu'il fallait donc remporter, et après vous aviez le contre-la-montre par équipe, le contre-la-montre individuel et l'arrivée là-bas à Axe 3 Domaines. Donc les étrangers se sont un petit peu régalés, et puis surtout ce sont les leaders qui ont gagné toutes les étapes.
Et tu es sûr qu'on va pouvoir se régaler la semaine qui vient, parce que là aussi les leaders devraient être en poste.
L'espoir fait vivre.
C'est vraiment pas un tour pour les baroudeurs cette année de toute façon, Cyril. Hein.
Pour l'instant, ça n'en a pas pris le chemin. Et Dieu sait s'il y en a pourtant qui tentent tous les jours, ça tente. Ouais. Et ça tente, mais ça ne réussit pas. Ça va bien finir par réussir.
Ouais, ouais, ouais. Alors, le profil de l'étape, Fred, est quand même intéressant pour les baroudeurs.
Ah, oui.
Parce qu'il y a, il y a pas mal de petites côtelettes aujourd'hui. Hein. On n'est pas encore dans les Alpes, loin de là. Demain, on sera au pied du Ventoux. Mais là, 7 difficultés, 4e et 3e catégorie.
5 difficultés de 4e catégorie, 5 côtes de 4e catégorie, effectivement. On a franchi tout à l'heure la première, la côte de Marcigny. Il en reste effectivement 6. La difficulté la plus importante, la plus longue en tout cas, c'est le col du Pilon qui est placé à 65 km de l'arrivée. Et puis derrière, dans le final, à 30 km de l'arrivée, la côte de Lausanne. Ensuite, dans l'agglomération lyonnaise, la côte de la Duchère à 15 km de l'arrivée, la côte de la Croix-Rousse. Ce ne sont pas des côtes très pentues et ce ne sont pas des côtes qui mettront à mal qui que ce soit, à part les plus solides sprinteurs, ceux qui, comme on dit dans le jargon, ne passent pas un chemin de fer. Ils sont rares dans le peloton du Tour de France et on voit mal, en cas d'arrivée groupée aux abords de l'agglomération lyonnaise, on voit mal comment Cavendish pourrait être éjecté, sorti du jeu sur ce genre de difficulté-là. Alors c'est vrai, ils ont raison, ces 18-là, de s'employer à l'avant de la course, parce que le trou, il faut le faire maintenant. La fin du parcours n'est pas assez exigeante en termes de difficulté pour faire la différence. C'est maintenant qu'il faut faire le break. On est à 113 km de l'arrivée et l'avance des 18 hommes, dont les 4 Français, Julien Simon, Cyril Gauthier, Blaise Cadry et le champion de France Arthur Vichot, plafonne à 40 secondes seulement. C'est compliqué. Ouais, les Euskaltel sont toujours à l'avant. Sachez pour information qu'il y a 9 équipes qui ne sont pas représentées dans cette échappée. Et oui, 18, le compte n'est pas bon. Il y a 22 équipes sur le tour. Certaines équipes ont plusieurs coureurs à l'avant. Euskaltel n'est pas là, tout comme Belkin, Argos, Vacansoleil, Saxo, Cannondale, Sky, Astana et Lamprey.
Alors, Fred le disait il y a quelques instants, Cyril, Cavendish devrait pouvoir, devait être en mesure de passer toutes ces petites côtelettes et ce col du Pilon, même s'il faut quand même se rappeler qu'hier, Cavendish et les siens ont été à la barre durant de longs kilomètres et on ne sort pas indemne d'une telle débauche d'énergie, Cyril. Est-ce qu'aujourd'hui, il risque
de
payer le
cas ? Sauf que les coureurs qui ont roulé, ce sont les équipiers de Cavendish. Cavendish, il n'a jamais pris un seul relais sur toute l'étape, puisqu'il était plutôt en position de portier, pour faciliter justement le travail de ses équipiers. Et il n'était pas question que lui aille se mettre dans le vent, alors qu'il visait la victoire d'étape, et que la seule chose qu'on lui demandait, c'était d'accompagner. Il a parfaitement bien fait la cassure qui a eu lieu sur l'accélération des Saxo. Donc lui, ce qu'on lui demandait, c'est de faire les 300 derniers mètres. Hein. Donc lui, il n'est pas fatigué par l'étape d'hier, j'ai presque envie de dire c'est lui le plus frais, quoi, puisque même Contador a roulé alors que lui n'a jamais roulé.
Ouais. Cyril, justement, est-ce que cette étape d'hier qui a vraiment marqué les esprits, il y a eu une énorme bataille tout au long de l'étape, tout au long de la deuxième partie de l'étape, est-ce que justement elle peut avoir laissé des traces dans les organismes de certains et de tous ces coureurs qui ont tout donné pour tenter et réussir les bordures?
Il y a tous ceux qui ont roulé, il y a ceux qui ont mis à l'abri leur leader. Ça veut dire qu'il y a de nombreux coureurs qui ont fait beaucoup d'efforts. J'ai presque envie de dire 80% des coureurs ont fait les mêmes efforts. Tout à l'heure, je parlais de Cavendish, mais ça a été vrai aussi pour les sprinters, pour Greipel qui n'a pas roulé. Bon, Kittel, lui, le problème était résolu de très bonne heure puisqu'il se retrouvait dans le deuxième groupe et qu'il n'a jamais roulé. Donc les sprinters hier n'ont pas participé à la bataille. En plus, il faut savoir que les sprinters sont ceux qui frottent le mieux, qui prennent donc le moins de vent, mais tout le monde a fini complètement râpé, peut-être à l'exception du dernier groupe dans lequel se situait Vauclair, qui eux se sont mis on fait un petit groupetto à l'arrière pour rentrer à une quinzaine de minutes. Donc à part ceux-là qui étaient donc dans le troisième groupe, tous les autres ont pris du vent pendant toute la journée.
Très bien, on reviendra tout à l'heure sur cette folle étape d'hier avec les conséquences qu'elle a eues sur le classement général, sur les défauts, faillance des uns, et évidemment notamment on pense à Alejandro Valverde qui hier a perdu toutes ses illusions sur Tour de France et qui du coup a décidé peut-être de se venger. On parlera de tout ça dans quelques instants. Auparavant, nous allons retourner à l'avant de la course avec la moto RMC Georges Quirino, donc au contact des 18 hommes de tête. Ils n'amusent pas la galerie quand même, ces garçons-là, hein, Georges.
Non, ça roule quand même dans le groupe de tête. On est à un petit peu plus de... On est presque à 70 km. Alors, on est dans une phase qui est descendante alors qu'on va rentrer dans le département de la Loire. Le groupe de tête est en file indienne. On discute énormément parmi ces coureurs-là. Et c'est vrai qu'on voit derrière toujours l'avant-garde du peloton. Les oranges de la formation Euskaltel et le Team Sky en deuxième rideau derrière les coureurs de l'équipe Euskaltel. Peut-être que Christopher Froome n'a pas envie de se faire piéger comme hier. Donc il reste plutôt dans les premières positions. En tous les cas, on a complètement changé de décor par rapport à hier. Hier, on était sur de très très longues lignes droites, comme avant-hier d'ailleurs, hein, sur l'étape. Et aujourd'hui, on est sur des routes un petit peu plus étroites, c'est beaucoup plus escarpé. Ça tourne à droite, ça tourne à gauche depuis le début de cette étape. Ça monte et ça descend. C'est vrai que c'est beaucoup moins plat. On a changé de profil vraiment pour une étape un petit peu plus accidentée. On a franchi qu'une difficulté pour l'instant. Mais ce n'est pas le même terrain de jeu qu'hier. Et on n'aura forcément pas donc le même type d'étape, même si le vent souffle encore aujourd'hui, notamment il souffle de face actuellement, de dos pour les coureurs actuellement. C'est pour ça qu'ils vont très vite dans cette portion de descente. Tous les cas, ça va vite quand même depuis le début de cette étape. On n'a pas chômé depuis le début de cette étape, que ce soit pour les hommes de tête ou le peloton.
Très bien, Georges. Fred, est-ce que les écarts ont évolué depuis tout à l'heure? On était descendu à 40 secondes d'avance pour les 18 hommes de tête. Est-ce que ça se maintient?
Ça remonte un petit peu, puisqu'on vraiment on s'emploie à l'avant de ce groupe de 18. On voit notamment les Américains, TJ Van Garderen, qui avait terminé 5e du Tour de France l'an passé, meilleur jeune, le coéquipier de Cadel Evans chez BMC, et Andrew Talansky, l'un des leaders de la formation Garmin Sharp, un Américain également. Ces deux-là avaient des prétentions au classement général avant le départ de Corse. La vérité du terrain les a amenés là où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire à la 17e position pour Talansky et beaucoup plus loin pour TJ Van Garderen, ce prometteur américain qui semblait en passe de prendre le relais de Cadel Evans. Mais les Pyrénées lui ont fait très, très mal à Van Garderen. Il pointe désormais à plus de 38 minutes de Christopher Froome. Cela ne donne pas leur part aux chiens, tout comme David Millar, le coéquipier de Talansky. On rappelle que dans ce groupe, des coureurs expérimentés comme Jens Voigt, Marcus Burgaert ou David Millar sont là également. Et puis on rappelle la présence des quatre Français, Julien Simon, Blaise Cadry, Cyril Gauthier et le maillot tricolore bleu-blanc-rouge, Arthur Vichot. 106 km de l'arrivée, l'écart est en train de remonter un tout petit peu sous la minute, 55 secondes.
Arthur Vichot, le champion de France, et son maillot bleu-blanc-rouge qui ne porte aucune marque de sponsor. Et c'est quelque chose qu'il faut signaler.
Qui tient à cœur de Marc
Maillot. Il tenait vraiment à ce que ce beau maillot soit dénué de toute inscription. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants. Il est 14h23, vous êtes sur RMC. C'est la 14e étape du Tour de France aujourd'hui. La dernière, avant la montagne, avant l'ascension du Mont Ventoux demain. Mais il y a de quoi faire. Aujourd'hui, on va pouvoir se régaler. On l'espère en tous les cas. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h. Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Jusqu'à 18h et jusqu'au 21 juillet. Profitez-en. Il ne reste plus qu'un peu plus d'une semaine. Et ensuite, tout le monde partira en vacances. Vous resterez en vacances, évidemment. Mais nous aussi, nous partirons en vacances. Et d'ailleurs, où que vous soyez en vacances, si vous ne voulez rien rater des programmes d'RMC, si vous ne voulez rien rater du Tour de France et de tous les événements sportifs du week-end, eh bien, une seule solution, télécharger l'appli RMC Sport. Comme ça, que vous soyez au bord de la plage, en montagne, n'importe où, vous pourrez écouter nos programmes. En attendant, nous sommes donc dans cette 14e étape du Tour de France, entre Saint-Pourçain-sur-Sioule et Lyon. Une 14e étape qui est la dernière étape avant le retour en montagne et demain l'ascension du Mont Ventoux. Première grandiose étape de montagne. On vivra ça demain dès 14h. En attendant, la 14e étape, nous sommes à 103 km de l'arrivée et on va faire tout de suite un top tour. Top course.
RMC Top Course.
Avec 103 km à parcourir avant l'arrivée à Lyon, la capitale des Gaules, qui est dans la fournaise aujourd'hui. Grand soleil une nouvelle fois sur la route du Tour. 18 coureurs à l'avant de la course en direction des 6 dernières difficultés de la journée, des côtes de 4e et 3e catégorie. 18 échappés, dont 4 Français. Le champion de France, Arthur Vichot pour l'équipe FDJ.fr, Blaise Cadry chez AG2R La Mondiale, Cyril Gauthier pour Europcar et Julien Simon, le coureur de l'équipe Sojasun. Ils sont accompagnés par des pointures comme Jan Bakelands et Jens Voigt, les deux coureurs de Radio Shack. Il y a là également TJ Van Garderen, l'américain, Lars Bak, le danois, David Millar, l'écossais, Andrew Talansky, l'américain, le suisse Albazini, ou un coureur aussi rapide que l'Espagnol José Joaquín Rojas. Il y a de tout dans ce groupe, mais il a beaucoup de mal à faire la différence et à creuser. 40 secondes d'avance sur le peloton pour ce groupe de 18 à 102 km de l'arrivée. Et pourtant, on ne lambine pas à l'avant. Chacun prend des relais très appuyés. Mobilisation générale.
La mobilisation générale, donc pour cette 14e étape, on ne veut pas laisser partir ce groupe d'échappés. Dommage, parce qu'il y avait quand même 4 Français, et notamment le porteur du maillot bleu-blanc-rouge, champion de France, Arthur Vichot, de la formation FDJ.fr, ainsi que 3 autres Français. On espère, on souhaite, on la veut tant, cette victoire d'étape française qui débloquerait le compteur. Pour l'instant, on en est toujours à zéro. Peut-être aujourd'hui, peut-être demain, sait-on jamais. En tous les cas, c'est vrai qu'on attend toujours. Allez, on va retrouver la moto RMC, toujours en compagnie des hommes de tête, Georges Quirino. Ils continuent malgré tout, hein. Ils insistent, ils veulent vraiment s'échapper. Ah, alors que j'ai l'impression qu'à l'arrière, Fred, ça. Non.
J'ai rien vu.
J'ai l'impression que le peloton est en train de ralentir, non ?
Oui. Les équipiers d'Igor Anton, le petit basque de l'équipe Euskaltel, menaient la chasse à l'avant pour rentrer parce qu'ils ne sont pas représentés. On a vu également des coureurs de Vacances Soleil qui, eux non plus, n'ont pas de coureurs dans le groupe d'échappés, notamment le champion de Hollande, Johnny Hogerland, et ses pansements. On se souvient d'Hogerland, lui qui avait fini dans les barbelés en direction de Saint-Flour il y a 2 ans.
C'est la bonne.
Et bien apparemment, Johnny Hogerland et les Vacances Soleil et les Euskaltel se sont relayés. Rideau à l'avant du peloton, effectivement, et l'écart va vite grimper. Le groupe de 18 a eu raison d'insister.
Eh oui.
Ils vont désormais prendre du champ. 52 secondes et bientôt 1 minute 15, 1 minute 30 et probablement plusieurs minutes d'avance. On tire des plans sur la comète, mais lorsque l'on voit la physionomie de l'avant du peloton avec les Sky de Christopher Froome, les Omega Pharma de Mark Cavendish qui occupent toute la largeur de la route et qui se mettent à discuter, eh bien bravo les 18, aux attaquants.
Ils ont eu raison d'attaquer, ils ont eu raison d'insister, Cyril, même quand il reste finalement assez peu de secondes, on peut continuer à y croire, parce que là les Euskaltel se sont dit au bout d'un moment, bon, on est crevé, on va pas non plus courir après eux toute la journée, et du coup bah voilà, maintenant c'est la bonne, ça va prendre de l'avance cette histoire là.
Oui, logiquement ça devrait prendre de l'avance, à moins que dans les quelques kilomètres qui viennent une autre équipe non représentée à l'avant ayant d'autres intérêts, entre autres la victoire d'étape, vont peut-être venir à nouveau en tête de peloton pour assurer la poursuite. Mais ils étaient revenus à 40-42 secondes, et puis les Euskaltel ont commencé à buter un petit peu à ce niveau-là. L'échappée a repris pratiquement une minute, donc là d'autres équipes sont venues, et puis maintenant on se dit si on continue longtemps comme ça, ça va pas le faire. Donc ils ont décidé de laisser repartir, et l'écart vient de reprendre d'ailleurs, l'écart qui était redescendu à 40-50 secondes et maintenant pratiquement de 1 minute 20. Donc c'est échappé. Maintenant est en train de s'en aller, et si les Cannondale de Sagan ne prennent pas les choses en main tout de suite, eh bien je crois qu'il va falloir peut-être chercher le vainqueur dans ce groupe.
Très bien, ben ce serait bien, ça nous arrangerait qu'une arrivée échappe aux sprinteurs et qu'un Français, qu'un baroudeur aujourd'hui s'impose. Ils ont eu bien raison d'insister. Et puis Cyril, il faut pas oublier non plus que les efforts ont été assez importants hier, et que demain surtout il y a le Mont Ventoux, et pour les équipes de leaders, on ne va pas tout donner aujourd'hui et on va en garder un peu sous la pédale pour demain, hein.
Oui, bah c'est pas trop les leaders qui sont concernés là par l'échappée, hein, indépendamment de la présence de Talansky, mais Talansky qui ne représente pas un gros danger. Il faudrait d'abord qu'il reprenne une douzaine de minutes et puis qu'il ne perde plus de temps après jusqu'à l'arrivée du Tour, ce qui est quand même pas gagné. Mais ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que je trouve bizarre, moi, que l'équipe Sky reste en premier rideau, voire en deuxième rideau derrière les Euskaltel, alors qu'ils n'ont plus que 4 ou 5 équipiers. Je vois pas qu'est-ce qu'ils font là en prenant quand même un petit peu de vent, alors que leur vraie stratégie aujourd'hui, c'est de se caler sur la Saxo. Donc c'est de se mettre, alors que là on les voit en première position, ils jouent comme s'ils avaient encore l'équipe de l'an dernier. Je pense qu'ils devraient quand même regarder ce que font les Saxo, et puis rester sur les Saxo et se mettre carrément dans le sillage de Contador. Mais alors que là, ils prennent du vent, il continue à prendre du vent. J'ai l'impression qu'ils vont avoir du mal à finir encore avec les six coureurs qui leur restent.
Mm-hmm. On s'intéressera justement à cette équipe Sky tout à l'heure, cette équipe Sky qui a encore une fois été mise à mal hier. Et on se demande si elle a beaucoup d'amis et beaucoup d'alliés dans ce peloton, cette formation Sky, et comment vont se passer les jours prochains. Allez, tiens, on y retourne sur la moto avec Georges Quirino toujours à l'avant de la course. Et j'imagine qu'il doit y avoir un peu plus de sourire, même si ce n'est pas facile à distinguer sur le visage des 18 échappés. Car cette fois-ci, c'est parti pour eux, Georges. Hein.
Oui, forcément qu'il y a un petit peu plus de sourire. En plus, on se rapproche de la zone de ravitaillement qui est à 1 km à Mars, pas la planète rouge, hein, mais la petite commune du département de la Loire pour les 18 coureurs de tête où on a beaucoup vu travailler les deux coureurs de la formation BMC, que ce soit Vanguard de Rennes ou Burgard, et également les deux coureurs de la formation Garmin. C'était surtout ces quatre-là qui étaient à la planche pour essayer de faire l'écart par rapport au peloton tout à l'heure. Et c'est vrai que depuis que on a constaté que le peloton avait ralenti l'allure, on a certainement fait marcher les oreillettes et on a vu les coureurs de la formation BMC s'adresser un petit peu aux autres pour dire allez maintenant tout le monde y va, tout le monde au travail. Et depuis, eh bien voilà, on voit notamment Yann Backlands, le belge ancien porteur du maillot jaune qui s'est porté aux avant-postes, et également Arthur Vichot qui a pris un relais tout à l'heure. Donc désormais tout le monde est à la planche dans ce groupe de 18 à l'avant de la course et à 500 mètres de récupérer quelques bidons et quelques barres énergétiques dans la zone de ravitaillement.
Et on s'intéressera tout à l'heure justement à la composition de ce groupe, qui a quelques jolis noms dans ce groupe de 18 échappés qui accroît son avance désormais sur l'avant-garde du peloton. Il était tout à l'heure de 40 secondes lorsque la formation Euskaltel, Fred, a décidé d'arrêter.
Elle s'est relevée, comme on dit, effectivement, et derrière, eh bien, on a un peu pris le relais à l'avant de la course avec, on le disait, le champion de Hollande, Johnny Hogerland, qui a tenté de 20 bouts droits, comme disent les coureurs, pour essayer de maintenir le suspense et de revenir sur l'avant de la course. Mais depuis 2 km, tout le monde s'est relevé. Effectivement, l'écart va crescendo. Bientôt 2 minutes d'avance pour ces 18-là, à 97 km de l'arrivée. Effectivement, ça peut être la bonne, ou en tout cas, l'élastique a de toute façon cassé. Et à l'avant du peloton, on continue de voir les maillots noirs des coureurs de l'équipe Sky, les coéquipiers du maillot jaune Christopher Froome. On vient de voir également le maillot à pois de Pierre Roland, qui se dit qu'il a peut-être manqué aujourd'hui une occasion d'aller récolter des points, mais qu'il se rassure, les points distribués sur les difficultés du jour, rappelons qu'elles sont au nombre de 7, elles sont classées en 4e et 3e catégorie, et les points sont maigres sur ces côtes, au sommet de ces côtes-là. Donc il aura bien l'occasion de se lancer dans une nouvelle rafle dans les Alpes. La 3e semaine s'annonce particulièrement fourni en points à prendre pour ce beau maillot à pois. Oui. 2 minutes 15, dernier pointage, dernière avance pour les 18 hommes de tête.
Et voilà, la formation Sky qui est donc maintenant en tête de ce peloton, elle assure un tempo, cette formation Sky dont Cyril nous parlait il y a quelques instants, une formation Sky qui a été mise à mal une nouvelle fois hier, Cyril, et du coup, eh bien, le leader du classement général, Chris Froome, a dû laisser une petite minute à plusieurs de ses adversaires pour la victoire finale dans ce Tour de France. On pense notamment à Contador ou encore à Mollema. Cette formation Sky qui ne semble pas avoir beaucoup d'amis dans le peloton, Cyril. Quand on est l'équipe leader, quand on a écrasé le Tour de France l'année dernière, quand on domine une nouvelle fois le Tour avec Chris Froome, c'est pas évident de trouver des alliés de circonstance ou des alliés sur la longueur.
Oui, c'est souvent le cas de ceux qui dominent trop ou trop outrageusement. Et il y a des rivalités, des jalousies qui peuvent. Et puis il y a aussi les comportements. Rappelez-vous, il y a 3 ans quand ils sont arrivés, le discours c'était eh bien nous on va être des vrais pros, vous n'êtes pas pros, on va réinventer le cyclisme. Et déjà dès la première année, de réinventer, ils ont rien réinventé. Et on s'est rendu compte qu'il fallait, comme les autres équipes qui naissent, il leur faut 3 ans, 4 ans, 3 ans au minimum pour arriver à avoir un rendement normal, parce qu'une équipe, eh bien, ça se constitue avec des hommes et pas avec de la science, et surtout pas avec des discours. Donc bah, cette équipe a été obligée de revoir un petit peu sa copie. Et puis il y a eu ce tour l'an dernier avec le comportement général de l'ensemble de cette équipe et du leader Bradley Wiggins qui a réussi à faire en sorte aussi que
camion pour la moto
de mettre
de mettre
cette équipe aussi, enfin de mettre les médias et la presse à dos, et puis de cette forme de rouleau compresseur, bon, ça au bout d'un moment ça finit par ennuyer tout le monde. Et d'ailleurs ils sont tellement rodés à ce genre de choses que alors qu'ils sont plus que 5, ils se mettent quand même en tête de peloton. Il reste 95 km et on est qu'à la 14e étape, alors que là ils devraient mettre tout le monde au chaud en disant hop, on n'a plus qu'un homme à marquer, voire deux, et basta quoi. Mais c'est pas nous qu'allons faire les tempos. Et bien, ils se remettent en tête et ils recommencent à faire les tempos. Je pense quand même que d'ici quelques temps, l'addition va être lourde.
Mm-hmm. On va tout de suite entendre Nicolas Portal, qui est donc le directeur sportif numéro 1 de cette formation Sky, l'homme qui murmure à l'oreille de Chris Froome. Est-il surpris d'avoir si peu d'amis dans le peloton? Il a donné sa réponse ce matin à Pierre-Yves Leroux.
C'est pas qu'on n'a pas d'amis, c'est qu'on n'a pas d'ennemis. Et c'est normal après que des équipes comme Movistar veut faire la course. Je pense que dans les jours futurs, clairement, Chris reste le plus fort en montagne. Nous, on est vraiment concentrés sur le classement général. Il y a d'autres équipes qui ont rien gagné encore, qui ont un collectif fort, qui pourront plus jouer le classement général et qui vont jouer ce collectif pour gagner les étapes, quoi. Et pourquoi pas pour remonter un petit peu plus dans le classement général. Je vois mal Valverde reprendre 12 minutes. Quintana est à 5 minutes, donc pourquoi pas l'aider à lui pour le maillot blanc, pourquoi pas le podium. Mais puis peut-être dans 3 jours ou 4 jours, on me dirait finalement, vous avez des amis maintenant. C'est le sport, il faut juste des fois savoir à quel moment on veut jouer à fin. Je respecte, mais pour moi, ça m'apparaît un petit peu compliqué ce qu'on fait Belkin. Je pense qu'ils se sont attachés un boulet au pied là.
Voilà, l'équipe Belkin qui a roulé hier, qui a décroché, qui a profité de la situation difficile dans laquelle se trouvait Alejandro Valverde pour se mettre en tête de peloton et aller accompagner les Omega Pharma de Mark Cavendish pour lâcher définitivement Alejandro Valverde. Fred, Cyril, est-ce que Belkin peut payer l'addition dans les jours qui viennent? Est-ce que Valverde est prêt à se venger? Est-ce qu'il en a les moyens? Est-ce qu'on se souvient de ce genre de choses dans le peloton, Cyril?
Oui, par obligation, il y aura toujours un moment ou un autre. Alors peut-être pas sur le Tour de France parce que il y aura peut-être pas l'ouverture pour cela, mais sur d'autres courses, oui, l'addition, il y a un jour ou un autre, et j'aime bien quel que soit le type d'épreuve ou le renvoi d'ascenseur aura lieu. Alors est-ce que Tendam et Bokemolema sont en mesure de résister à éventuellement des attaques de Valverde ou Valverde qui pour le plaisir se mettrait à rouler avec des adversaires des deux Hollandais? Oui, ça dépendra, mais faut surtout pas qu'ils aient un mauvais jour, parce que rappelez-vous à Axe 3 Domaines, c'est quand même Valverde qui était devant.
Fred?
Oui, si on commence à peser le pour et le contre, le pourquoi du comment et qui je vais rallier avec moi, avec qui je vais me fâcher, avec qui je vais être bien, on s'en sort pas. Il y a tellement d'intérêts, c'est multiple hein, sur les routes du Tour. Il y a des antécédents, évidemment, des années précédentes et des courses du début de saison. Il y a des affinités d'être humain à être humain, d'équipe à équipe, de manager à autre manager. Je pense qu'il y a un moment, les calculs, ça suffit. Les oreillettes sont assez omniprésentes dans le sport cycliste pour ne pas rajouter des calculs. Et quand Nicolas Portal dit Belkin s'est peut-être mis un boulet au pied, oui, mais s'ils font pas ça, ils font pas la course. Et faire le tour et faire du vélo, c'est faire la course. Alors allons-y et allons-y gaiement et avec tout l'enthousiasme possible. Et tant pis s'il y a un retour de bâton un jour, tant pis si l'un ou l'autre est en colère. Oui, on est en colère chez Movistar. Alejandro Valverde, la mauvaise, et ben très bien, ça va faire de la course derrière. Et tant pis si Mollema perd 1, 2, 3, 10 places au classement général. La roue tourne et faites-nous du spectacle. Mais
exactement, nous on aime bien que vous attaquiez, même si un homme à terre, même s'il est perdu dans la descente, dans la montée, allez-y, attaquez de toutes parts, harcelez-les, livrez bataille. C'est comme ça qu'on aime le cyclisme, Cyril, non? Les alliances, les circonstances, les vents. vengeance viles et mesquines. On n'en veut pas, nous on veut de la bagarre.
Oui, mais si elles sont viles et mesquines, ça fait du spectacle aussi.
Eh oui, tu as raison.
Mais c'est vrai que les jours passent, les choses s'atténuent ou vont s'amplifier. Mmh. Et ça sera toujours une question de circonstances. Le jour où on peut renvoyer l'ascenseur, on le renverra. Alors des fois, on renvoie l'ascenseur à quelqu'un qui vous a donné un coup de main. Et puis, on renvoie l'ascenseur, mais pas dans le même sens, à quelqu'un qui n'a pas été très sympa avec vous à un moment donné de la compétition. Mmh. Mais la course vit toujours.
Et... Toi, tu te vengeais, non? Quand tu étais patron d'équipe, non? Quand
non,
on te
faisait
un mauvais coup, Cyril.
Alors, détrompez-vous. Parce que j'avais plusieurs règles en termes de management. Mmh. La rancune et utiliser sa rancune en termes de stratégie de course se retourne toujours contre
la rancune
vous.
Et c'est un très
mauvais réflexe à avoir. Il ne faut surtout pas rentrer dans ce jeu.
Bien sûr.
C'est pour ça qu'il est druide.
Il a beau avoir du tempérament, c'est vrai qu'il ne faut pas réagir de manière épidermique sur le vélo ou ailleurs d'ailleurs.
Alors il se dit que Valverde est évidemment en colère contre les Belkin, qu'il est surtout en colère, Fred, contre la formation Europcar.
Là aussi, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il dit. Valverde, il a parlé à chaud. Là, ce qu'on a entendu et lu hier soir et ce matin, eh bien, ce sont des réactions qui sont récoltées au cul du camion, en bas du bus. Il est évidemment très désillusionné, comme disent les Espagnols, très déçu par le débours affiché sur la ligne hier à Saint-Amand-Montrond. 9 minutes de retard sur le vainqueur du jour, 8 minutes du coup sur le maillot jaune Christopher Froome. Il est loin désormais Alejandro Valverde, mais qu'il en est après les Belkin ou Europcar, parce que Europcar a roulé et derrière la roue tourne. C'est la course.
Enfin, s'il avait eu un coéquipier avec la même taille de vélo, à ses côtés, ça aurait été plus rapide.
Je crois que la faute, et on n'a pas eu le temps de le dire dans le direct, mais c'était criant, je crois que la faute chez Movistar, c'est d'avoir fait redescendre du peloton le Portugais Rui Costa, qui était en embuscade au classement général, qui était 9e. Ils avaient Quintana, Valverde et Rui Costa dans le top 10. Ils ont perdu hier et Valverde et Rui Costa.
Ils l'ont laissé redescendre, mais trop tard.
Et Rui Costa, c'est quand même le dernier vainqueur du Tour de Suisse.
Ah oui.
C'est un coureur qui était là pour seconder Valverde, mais qui était un super lieutenant. Quintana, lui, il découvre le Tour de France. Et bien qu'il ait des talents réels en montagne, des fulgurances de pur colombien, eh bien, Rui Costa semblait quand même un élément clé dans cette équipe Movistar.
Très bien, Fred, on va
Quand on commence à faire une première erreur, souvent on en fait une deuxième, une troisième et une quatrième.
Les dominos.
Ouais, c'est la théorie des dominos. Fred, on va s'interrompre quelques instants. Oui. Rappelle-nous en deux mots de quoi il s'agit dans cette course. Un nouveau top course.
18 coureurs.
Top
18 coureurs échappés sur la route de Lyon. Effectivement, une route casse-pattes, montagne russe aujourd'hui, avec 4 Français dans ce groupe très conséquent. Le champion de France, Arthur Vichot, Julien Simon, Blaise Cadry et Cyril Gauthier, et des coureurs aussi expérimentés que Jens Voigt, David Millar, le Suisse Albacini, TJ Van Garderen ou un autre américain, Andrew Talansky. 18 à l'avant, 93 km à parcourir et l'avance est de 2 minutes 30. Désormais, on s'est un peu calmé à l'avant de la course depuis que le trou est bel et bien fait sur le peloton.
14h47 sur RMC, l'intégral tour revient dans une petite minute pour cette 14e étape du Tour de France. À tout de suite.
RMC, intégral tour, Christophe Cessieux.
L'intégral tour est la 14e étape de la grande boucle aujourd'hui entre Saint-Pourçain-sur-Sioule et Lyon. C'est la troisième et dernière des étapes de transition de la longue diagonale, donc entre le nord-ouest que nous avons quitté et après le contre-la-montre l'autre jour, et demain évidemment l'arrivée dans la montagne et l'arrivée au pied du Mont Ventoux qui sera escaladé dans l'après-midi. Intégral tour évidemment demain après-midi pour suivre cette grande étape de montagne. En attendant, c'est donc la 14e étape. C'est une étape de transition, mais une étape qui a quand même un profil très intéressant avec pas moins de 7 difficultés aujourd'hui. Certes, elles sont classées en 4e et 3e catégorie, mais il y a tout de même de quoi faire aujourd'hui. Et puis nous avons un groupe d'échappés conséquent qui a réussi à prendre la poudre d'escampette. On va tout de suite faire un nouveau top course avec Fred.
RMC Top Course.
avec effectivement 18 échappés en direction de Lyon. Il reste moins de 90 km à parcourir et après un long mano à mano avec le peloton, l'avance a augmenté. 2 minutes 40 à 88 km de l'arrivée. On rappelle que dans ce groupe de 18 hommes, on a 4 Français, le champion de France Arthur Vichot de la FDJ.fr, Julien Simon chez Sojasun, Blaise Cadry chez AG2R La Mondiale et Cyril Gauthier pour l'équipe Europcar. Il y a là 2 Radio Shack, Backelands et Voigt, 2 BMC Bourgart et Vanguard de Rennes. Il y a là l'Écossais David Millar et son coéquipier de Garmin Sharp, le talentueux américain Andrew Talansky. Notez la présence également du Suisse Michael Albazini ou des 2 Movistar, les Espagnols Herviti ou Rojas.
Ok, 18 hommes en tête. Il y a du beau monde quand même, Fred, dans ce groupe. On rappelle que Talansky, c'est le plus dangereux au classement général et au classement également du maillot blanc, meilleur jeune. On a quelques beaux Français, quelques beaux coureurs français, notamment le champion de France. Bref, il y a de quoi faire dans ce groupe. Il y a de quoi faire pour aller chercher une victoire d'étape.
Oui, et il y a surtout des coureurs qui savent mener des échappées à leur terme. On pense notamment à Jens Voigt, vainqueur de 2 étapes. On s'en souvient, c'était en 2001 à Saran et puis en 2008 vers Montélimar, le jour où Oscar Pereiro s'était livré à une échappée fleuve. Il y a là également David Millar, l'Écossais, qui nous avait fait un beau coup l'an passé en direction de l'Ardèche vers Aubenas. David Millar, dont on avait rebattu les oreilles des auditeurs avec de son histoire, repenti du dopage, revenu avec une philosophie très saine semble-t-il et presque érigé comme un chantre de la lutte antidopage par le manager de son équipe américaine Jonathan Wouters. Il y a là effectivement des coureurs très rapides. Rojas, l'Espagnol de Movistar, est capable d'aller faire régulièrement 5e de sprint massif, dans les 5 premiers de sprint massif. Le Suisse Albazini de l'équipe Orica Green Edge est un coureur qui sait tout faire lui aussi, qui sera dangereux évidemment dans les dernières côtes de la journée, notamment dans l'agglomération lyonnaise, que ce soit la Croix-Rousse ou la Duchère, attention à lui. Mais il faut pour cela que le groupe aille au bout. L'écart est stabilisé à 2,45 à 86 km de l'arrivée. Le peloton est mené par les Sky du leader Chris Froome. Dans ce groupe également, notez les talentueux jeunes TJ Van Garderen, qui avait terminé 5e du Tour l'an passé et qui là se lance dans un baroud d'honneur après avoir pris l'eau notamment dans les Pyrénées. Il y a là l'ex-maillot jaune du début de ce Tour 2013, Yann Bakelants, et effectivement les Français Gauthier, Cadry, Vichot et Simon, autant de francs-tireurs. Tout nous dit que cette échappée pourrait aller au bout ici en direction de Lyon. Ce serait la première fois depuis le départ du Tour en 14 étapes qu'un coup va au bout, parce qu'on ne peut pas dire que la victoire de Bakelants lors de la deuxième étape à Ajaccio soit vraiment le fruit d'une échappée construite. Elle était sortie dans les 10 derniers kilomètres et il n'avait conservé, le Belge de la formation Radio Shack, qu'une petite seconde, souvenez-vous, sur un groupe maillot jaune réglé à l'époque par le Slovaque Peter Sagan.
Eh ben, on va prendre des nouvelles justement de notre groupe de tête rapidement avec Georges avant de marquer une petite pause pour les infos. Tout va bien à l'avant, Georges? Il fait bon, il fait chaud, ça envoie, tout le monde s'entend bien?
Tout le monde s'entend bien, il fait beau, il fait chaud, on se ravitaille surtout alors qu'on est dans la traversée de Pont-Trembouze. On est rentré dans le département du Rhône depuis quelques instants et les 18 coureurs de tête qui sont redescendus chacun à leur tour à leur voiture pour récupérer les bidons, puisque désormais les directeurs sportifs ont pu se placer avec leur voiture derrière les hommes de tête. C'est une longue file impressionnante de voitures derrière les hommes de tête qui voilà, maintenant s'observent, qui travaillent tranquillement. Ils se ravitaillent avant le sprint intermédiaire qui va intervenir dans 3 km maintenant pour ces 18 coureurs où tout le monde travaille, même le maillot bleu blanc rouge d'Arthur Vichot que l'on a vu prendre un relais il y a quelques instants.
Très bien, il est 14h56, on va se retrouver dans quelques instants, dans quelques minutes plus exactement, juste après les infos de 15h pour la suite de l'étape. 18 hommes en tête, 2 minutes 50 d'avance sur le peloton. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, Intégral Tour. Jusqu'à 18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
L'Intégral Tour jusqu'à 18h et jusqu'au 21 juillet, la dernière semaine du Tour de France approche. Elle débutera demain avec une étape incroyable et l'ascension du Mont Ventoux, ce mont mythique sur les routes du Tour qui a tant vécu de grandes histoires, des histoires tristes et de belles histoires également. Nous sommes pour l'instant dans cette 14e étape entre Saint-Pourcien-sur-Sioule et Lyon. Il reste 78 km à parcourir et la situation est simple. Un groupe devant avec une avance qui ne cesse de croître. Fred Adam pour le Top Course.
RMC Top Course.
Avec 18 hommes effectivement à l'avant de la course depuis le début de la journée, ça a mis du temps à prendre du champ ce coup-là, mais ça l'a pris. 3 minutes 20 d'avance pour les 18 échappés, dont 4 Français. Le champion de France en titre, Arthur Vichot, Blaise Cadry est là également, Cyril Gauthier et Julien Simon. Il y a également là le Belge Bakelands, l'ancien maillot jaune, l'expérimenté vétéran allemand Jens Voigt, l'Écossais David Millar, les Américains Van Garderen et Talon ski, deux petites pépites américaines qui n'occupent pas franchement les avant-postes. Et puis il y a là l'Espagnol Rojas par exemple, ou le Suisse Albazini. 3 minutes 15 d'avance pour ces 18 là à 78 km de l'arrivée, alors qu'on vient de passer la troisième difficulté de la journée, une côte classée en quatrième catégorie. Et derrière, une contre-attaque est en train de se former, ça ne roule pas assez pour des coureurs de deux équipes qui ne sont pas représentées à l'avant. J'ai nommé le champion de Hollande Johnny Hogerland, héros malheureux du Tour il y a 2 ans, et Damiano Cunego, l'italien de la Lampre, ancien vainqueur du Tour d'Italie, réduit au second rôle depuis quelques années maintenant. Ces deux-là vont avoir beaucoup de mal à rentrer sur les 18 là, sur les 18 coureurs de tête, mais ils ont raison de tenter leur chance.
Alors que le peloton lui se trouve à 1 km du passage au sommet de cette côte de Tizy-les-Bourgs, et ensuite il y aura le seul col de la journée, le col du Pilon, classé en troisième catégorie. On vivra ça dans quelques instants. La moto RMC, on la retrouvera dans un instant. Cyril Guimard, lui, est toujours avec nous. 3-0-8, bon, c'est pas encore suffisant pour se dire que la victoire d'étape se joue entre ces 18, mais ça continue de monter tranquillement, Cyril.
Oui, tout à fait. L'écart, il faut dire que derrière, il y a un faux tempo, toujours emmené d'ailleurs par les Sky en tête de peloton, même si ce peloton est secoué par quelques velléités actuellement. Il faudra attendre pour voir la physionomie de la course peut-être changer lors de l'ascension du col du Pilon, parce que pour l'instant, si tous les sprinters passent au sommet dans le peloton, il y a fort à parier que la course change de visage et qu'on retrouve les Lotto Bellisol, éventuellement les Quick-Step et les équipiers de Peter Sagan et les Argos passer à l'offensive, tant le final est quand même relativement facile, puisqu'on a eu la chance de le découvrir tout à l'heure. C'est pas là qu'on fera sauter les Cavendish dans les deux dernières petites bosselettes, la côte de la Duchère et la côte de la Croix-Rousse à 10 km de l'arrivée. Donc il va falloir attendre si la bagarre dans le peloton se déclenche dans le col de Pilon ou pas.
Ah oui, on va être attentif évidemment, Cyril, à ce qui se passe dans quelques instants dans ce col du Pilon. On va s'interrompre quelques instants, on va remonter vers Paris, plus exactement aller à Charletti où ont lieu ce week-end les championnats de France d'athlétisme. François-Xavier Chauffort est avec nous. Salut Fix.
Salut Christophe.
Avec évidemment un duel très attendu cet après-midi, le duel entre les deux stars du sprint français, Vico contre le maître. Ce sera dans quelques minutes.
Et oui, les séries seront d'ici à peu près une demi-heure, 15h30 pour Christophe Lemaître et 15h36 pour Jimmy Vico précisément, et la finale une heure après. Un duel très très attendu, c'est le grand moment que tout le monde attend ici au stade Charletti ce week-end. L'explication entre les deux meilleurs sprinteurs français du moment, qui s'étaient retrouvés pour la dernière fois sur 100 mètres lors de la finale des championnats d'Europe à Helsinki il y a un an, et ça s'était joué d'un rien. Lemaître l'avait emporté vraiment à l'arraché. Depuis, Vico a progressé, donc le duel s'annonce de toute beauté tout à l'heure entre les deux hommes. Il faudra qu'ils se qualifient pour la finale, normalement ça doit être une formalité, sait-on jamais. Donc tout à l'heure, on attend beaucoup de ce duel entre Vico et Lemaître.
Ouais, Vico, Lemaître, c'est un peu Black et Bolt, non?
Eh ouais, c'est à la française. Ouais, ouais, même s'ils s'entraînent pas ensemble, effectivement, il y a une saine rivalité entre les deux. C'est eux les deux locomotives du sprint français. Ils vont faire un grand bien au relais français également, qui sera engagé aux Mondiaux à Moscou dans un mois. Mais effectivement, c'est les deux stars montantes de ce sprint français. On connaît Christophe Lemaître depuis un petit bout de temps maintenant. Jimmy Vico, lui, ça fait maintenant 2-3 ans qu'il pointe eh bien, le bout de son nez et qui aligne les performances, son dernier chef-d'œuvre entre guillemets, le titre de champion d'Europe du 60 mètres en mars dernier. C'était eh bien, donc lors des championnats d'Europe en salle.
Alors tu nous parlais il y a quelques instants Fix des championnats du monde qui auront lieu dans un mois. On est toujours à la chasse, non pas au quota mais au qualif, hein, pour
au
minima très
et
exactement.
Oui, parce que jusqu'avant le début de ces championnats, il n'était que 24 athlètes avoir réussi les minima, ce qui est très très peu, hein, 19 messieurs et 5 dames. Et bien il y a une nouvelle qui s'est rajoutée à la liste, et ça c'est la bonne surprise, c'est la sensation de ce début d'après-midi. Cindy Bio sur le 100 mètres haies a remporté sa série en 12 secondes 75. Elle a pulvérisé son record personnel qui était jusqu'à présent de 12 secondes 93, meilleure performance française de la saison bien évidemment. Elle s'est qualifiée pour la finale et donc elle a réalisé les minima qui étaient à 12 84. Sensation Cindy Bio qui a vraiment hurlé de plaisir une fois la ligne franchie et quand elle a vu le chrono s'afficher sur l'écran géant de Charletti. Ça nous promet une belle finale tout à l'heure, mais en tout cas voilà, c'est le premier beau rayon de soleil sur la piste pour l'équipe de France Cindy Bio sur 100 mètres haies.
Les conditions aujourd'hui de compétition sont bonnes, il fait beau, il fait chaud.
Il fait 24-25 degrés, le vent est à l'avantage des sprinteurs dans la ligne droite, on l'a vu avec Cindy Bio, mais pas trop favorable, donc pour l'instant les chronos sont homologués. Bref, les conditions sont idéales et bien sûr, eh bien, ça nous intéresse bigrement pour la finale du 100 mètres dont on a parlé il y a quelques instants.
Très bien, tu nous appelles, hein, tu nous appelles sûr, dès que les stars sont sur la piste de Charletti. À tout à l'heure, Fix. Voilà, les championnats de France d'athlétisme et évidemment les championnats du monde, vous les vivrez dans un mois quasiment en intégralité sur l'antenne d'RMC avec toute la Dream Team athlée, avec Jeff, avec Fix et avec Maryse et VanGP. Retour à la course ici, cette 14e étape du Tour de France. Il reste encore 74 km à parcourir avant l'arrivée à Lyon. On va aller faire un petit tour sur la moto avec Georges et Marco pour voir ce qu'ils voient et pour nous dire s'il fait beau, s'il fait chaud et si les hommes de tête sont toujours bien organisés. Georges.
Ils sont toujours bien organisés effectivement dans une descente là, les 18 hommes de tête en file indienne et derrière eux c'est un gros trafic hein, puisqu'il y a 10 voitures de directeurs sportifs. Donc il faut se frayer un chemin dès que c'est un petit peu sinueux derrière les hommes de tête. On va essayer dans quelques instants, tout à l'heure, d'aller voir la voiture Radio Shack et notamment pour parler avec le directeur sportif Alain Galopin. Il nous a promis qu'il voulait bien nous parler parce qu'il y avait Cyril Guimard à l'antenne avec nous. Donc on va essayer dans quelques instants, dès que la route nous le permettra un petit peu plus, d'aller le voir pour avoir des nouvelles de Yann Bakelandt et Jens Voigt qui sont à la planche hein, dans ce groupe depuis le début de cette échappée. Jens Voigt qui depuis le début de la journée a tenté d'être dans le bon coup de la journée et qui encore une fois eh bien, est à l'avant, mais tout le monde travaille, que ce soit Cyril Gauthier, que ce soit Arthur Vichot ou Blaise Cadry, les Français ils sont tous à la planche dans ce groupe de 18 qui continue d'accélérer dans cette descente. On arrive dans une commune désormais un petit peu un coin d'ombre pour les 18 hommes de tête. Ils en ont bien besoin car il fait encore très chaud aujourd'hui sur les routes du Tour.
Très bien, quelle heure est-il là? Il est 15h14, c'est l'heure des paris à 15h14 parce qu'il va pas falloir trop tarder quand même si on veut gagner et si on veut trouver le gagnant. On y va, c'est les paris.
Les paris RMC Tour de France.
Et il est là, comme tous les jours, c'est Benji, l'homme des paris, l'homme de la cote, l'homme qui a la cote. Salut Benji.
Salut Christophe, salut à tous.
Alors, on rappelle que notre druide international est largement en tête de cette Dream Team Paris. Hein, vraiment, depuis quelques jours, il est dans une phase d'euphorie. Je sais pas ce qu'il a pris, Cyril, mais
c'est le pentacourt qui fait la différence.
C'est le pentacourt qui fait la différence et les chaussettes aussi. Les chaussettes de Cyril, magnifiques, qu'il nous met dans la voiture, qu'il lave tous les matins.
Et qui vous endort pour pas gagner au pari forcément.
Voilà. Donc on rappelle qu'il est en tête. Deuxième position, Virginie Fulpin quand même. Hein.
Attention, oui. Attention, sur la course, il se passe toujours quelque chose. Et là c'est une mauvaise nouvelle a priori. 72 km de l'arrivée, toujours un groupe de 18 à l'avant. Le peloton va piano. Mais à l'arrière du peloton, Thibaut Pinot, le vainqueur de l'étape de Porrentruy, l'an passé 10e du classement général sur les Champs-Élysées pour son premier Tour de France. Le grimpeur de la FDJ.fr qui se disait malade ce matin au micro de Pierrick Ten est attardé à la fenêtre de la voiture médicale. Apparemment ça ne va pas fort du tout pour Thibaut Pinot qui a été battu à la régulière lors de la première étape dans les Pyrénées après avoir craqué dans une descente et puis qui a baissé la garde dans la foulée. Depuis c'est vrai que le cercle vicieux on va dire à l'opposé de vertueux s'est enclenché pour Thibaut Pinot. Le moral a un peu flanché et quand tout va mal, il ne va pas bien physiquement désormais. On va tâcher de rester, ouais. À l'affût.
Hein. Oui, parce que ça peut sentir l'abandon si évidemment Thibaut ne réussit pas récupérer.
Et pourtant demain c'est Ventoux.
Mais oui, une étape qu'il avait cochée justement et il nous en parlait il y a quelques jours. Il espérait pouvoir faire quelque chose dans cette ascension du Mont Ventoux, d'autant qu'au sommet du Ventoux, il n'y aura pas de descente et on sait que Thibaut est plutôt allergique aux descentes techniques. là, demain, ça aurait été vraiment idéal pour lui, mais il n'a pas l'air d'être au mieux. Cyril, tu nous disais tout à l'heure hors antenne que ça ressemblait étrangement à ce qu'a vécu Bradley Wiggins sur le dernier Tour d'Italie, lorsqu'il a senti qu'il n'était plus vraiment en forme, qu'il était abattu mentalement. Eh bien, il a aussi, il est aussi tombé malade. Est-ce que c'est pas un peu ce qui est en train d'arriver à Thibaut Pinot?
Oui, ce sont, enfin, je parlais d'un, sur un plan purement général. Lorsque vous partez sur une épreuve, mais c'est vrai sur dans toutes les formes de sport, lorsque vous partez avec de grosses ambitions et que d'un seul coup toutes ces ambitions s'écroulent pour vous rejeter à l'arrière et au fond des classements, eh bien dans la tête vous n'y êtes plus. Et c'est pour ça que je faisais un petit peu le parallèle avec Bradley Wiggins. Un, comme vous n'êtes plus dans le classement, eh bien, vous êtes souvent plus sujet aux chutes. Et puis j'ai l'impression que lorsque dans la tête vous êtes totalement démoralisé, Cyril, eh bien vous êtes beaucoup plus perceptible à la maladie.
Cyril, on va t'interrompre quelques instants justement, puisque nous sommes avec Marc Madiot, avec Georges Quirino à l'avant de la course. Marc Madiot, le manager de la FDJ.fr. Georges.
Exactement, on s'en rapproche de la voiture FDJ.fr avec Marc Madiot qui suit Arthur Vichot dans cette échappée. Marc, déjà sur l'échappée du jour pour Arthur Vichot, c'était un profil qui lui convenait aujourd'hui pour être à l'avant de la course.
Ouais, c'est une étape qu'il avait cochée comme le font beaucoup de coureurs avant le départ du Tour. Maintenant, après, il faut avoir un peu de réussite et être dans le bon coup. Ça a mis très longtemps avant de sortir pour de bon. Maintenant, on va voir ce qui va se passer au sommet du col, parce que on peut imaginer aussi que des équipes de sprinters se remettent en route derrière éventuellement, comme il n'y a pas trop de tempo à l'avant. On va voir ce qui va se passer.
C'était la stratégie de l'équipe FDJ.fr après les problèmes.
On voulait
avec
être dans
Pinot.
Le coup du jour, ouais. Après, le destin va faire le reste ou pas.
On voit que Thibaut Pinot est un peu en difficulté aujourd'hui. Il ne se sentait pas très bien ce matin, c'est ça?
Non, il n'était pas top. J'espère que ça va passer quand même.
Vous attendez peut-être de le voir demain? Vous attendez de voir comment il va aller aujourd'hui?
Chaque jour suffit à peine. On est aujourd'hui samedi et on fait l'étape du samedi.
C'est un tour un peu difficile pour lui pour l'instant.
Oui, mais on fait l'étape du samedi et on verra pour demain.
Bon, un maillot bleu, blanc, rouge à l'avant, sans sponsor. Pourquoi déjà?
Parce que je considère que sur un drapeau, on ne met pas de sponsor, quel que soit le drapeau. C'est une question de respect, c'est tout.
D'accord.
Donc les médias devraient même figurer dans les règlements. Ça y figurait à une époque, mais ça avait été supprimé. Je trouve ça dommage.
De quoi souffre Thibaut Pinot, Georges?
Voilà.
De quoi souffre Thibaut Pinot, me demande à l'antenne.
Il est pas top, il a des problèmes de gorge, il se sent pas très bien, mais bon, le tour est difficile pour lui, mais on apprend aussi dans la difficulté.
Vous êtes inquiet pour la journée, peut-être, pour lui?
Non, écoutez, on verra tout à l'heure.
Bon, merci beaucoup Marc Madiot, manager de la FDJ.fr, qui était donc avec nous pour nous donner les nouvelles de Thibaut Pinot et de Arthur Vichot, qui est à l'avant de cette échappée.
Voilà, pour l'instant, concentration sur Arthur Vichot. Thibaut, on verra tout à l'heure s'il arrive au bout, mais bon, on sent que bon, hein, Marco n'a pas envie d'en dire beaucoup aujourd'hui là-dessus, hein, Fred.
Il n'y a pas de diagnostic médical et c'est jamais bon signe quand il n'y a pas de diagnostic médical. C'est peut-être, on a eu par le passé des coureurs qui flanchaient mentalement. On ne lui souhaite pas évidemment, mais il est arrivé avec tellement de pression, ouais. Il portait tellement les espoirs tricolores, Thibaut Pinot, qu'effectivement on pourrait comprendre que psychologiquement il subisse un contre-coup depuis le départ du Tour.
Très bien, on revient au Paris et ensuite on évoquera la position de Thibaut Pinot et des autres coureurs de la FDJ. Donc Benji, tu nous as donné le classement de la Dream Team. Maintenant, donne-nous les différentes cotes des favoris pour cette 14e étape. J'imagine que les cotes ont évolué depuis hier soir, mais il y a quand même pas mal de coureurs qui ont été donnés hier soir par la Dream Team et non pas par les coursiers d'ailleurs, je tiens à le préciser, hein, Benji.
Oui, effectivement, après les mauvaises nouvelles concernant Thibaut Pinot, les bonnes nouvelles, il y a 3 coureurs donnés par la Dream Team des Paris RMC dans l'échappée du jour et effectivement les 3 pronostiqueurs à féliciter pour l'instant, c'est Virginie Fulpin qui avait donné David Millar cote de 400, donc si ça passe, ça fait très mal. Christophe Cessieux qui avait donné Arthur Vichot cote de 40, ça peut faire mal aussi, ça chamboulera le classement. Et Fred Adam, qui n'est pas très bien depuis ce début de tour avec Boasson Hagen, son chouchou qui a abandonné, est bien placé aussi puisqu'il avait joué Julien Simon cote de 50. Donc 3 personnes dans l'échappée peuvent sourire ce soir à l'arrivée. À noter que le favori pour l'instant du côté des bookmakers, c'est le Suisse Albazini cote de 4,60 devant Joaquin Rojas qui est à 8.
D'accord, d'accord. Cyril ?
Oui, non, je voulais dire à Benji qu'il faut quand même attendre avant de féliciter. Il faudrait peut-être attendre.
J'ai dit pour l'instant. J'ai dit pour l'instant.
Au moins, on a senti les coureurs qui étaient dans le coup, quoi. Tu vois ?
J'ai pas entendu le pour l'instant, mais bon.
Voilà.
Non, les félicitations, c'est après l'arrivée.
On verra. En tous les cas, ils sont placés. Alors que celui que tu as donné qui déjà, Cyril hier ?
Comment ?
Peter Sagan.
Ah oui, Peter Sagan, pour l'instant, il n'est pas là. Mais c'est vrai qu'il reste malgré tout le favori. Très bien, merci Benji. On te retrouve tout à l'heure. On va retourner justement à la moto RMC avec Georges Quirino qui se trouve aux côtés d'un autre directeur sportif.
Ouais, on se rapproche de la voiture Radio Shack avec Alain Galopin, le directeur sportif qui suit Yann Backlands et Jens Voigt. Bonjour Alain.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui ? On a vu que Jens a beaucoup insisté.
On attend la victoire.
Ouais.
Je pense que Yann, il a déjà prouvé qu'il savait gagner, donc on espère, mais bon, avec Jens, on ne sait jamais aussi.
On sait jamais parce qu'il a beaucoup d'expérience, Jens Voigt. Pouvez-vous nous parler de lui un peu ?
Il a beaucoup d'expérience, mais il devient vieux aussi, donc je pense qu'on va voir, suivant les moyens qu'il peut avoir. Faut pas oublier qu'il est devant depuis le départ. Ils sont partis à 3, ils ont fait quand même 30 km à 3 avant d'être rattrapés, donc on va voir.
Il devient vieux, mais il a beaucoup de caractère. On a vu que ça a beaucoup marché sur les dernières années, notamment. On le voit souvent dans les bons coups, Jens Voigt.
Oui, mais on va voir. Je vais pas dévoiler mes cartouches maintenant, parce que après, vous allez. Cyril Guimard, il va dire ça à tout le monde et je vais me faire avoir.
Bon, alors on va parler de demain, c'est mieux, Alain. Juste un petit mot sur Andy Schleck, sur l'étape du Ventoux.
Ça va. Vous inquiétez pas pour lui, il va beaucoup mieux qu'on le pense et on le verra la dernière semaine.
C'est un terrain de jeu qui va lui plaire demain ?
Ah, forcément. 20 km de montée, oui, c'est sûr.
D'accord, merci beaucoup Alain Galopin, directeur sportif de la formation Radio Shack. Voilà, qui nous dit quand même que Andy Schleck, il faudra compter sur lui demain dans l'étape qui nous mènera au sommet du Mont Ventoux. Ça veut dire quand même que le Luxembourgeois revient parmi les premiers rôles, en tout cas. Ouais. Envie de le croire.
Ils sont prudents, en tous les cas, nos directeurs sportifs aujourd'hui. Hein. Cyril, ils n'ont pas envie d'en dire beaucoup. Hein. On sent que la dernière semaine, et notamment cette étape de demain qui fait fantasmer tout le monde, eh bien, personne n'a envie de dévoiler ses batteries.
Oui, mais ils n'en savent peut-être pas plus que nous. Hein.
Oui. Bah, ils savent quand même quels sont leurs coureurs en forme et la stratégie qu'ils peuvent développer.
À part ça, sur les équipes adverses, ils n'en savent pas plus. Mais pour revenir à Alain Galopin, à mon avis, il a un coureur qui est actuellement en réussite dans cette échappée. C'est Backlund, rappelez-vous. Backlund qui a porté le maillot jaune là-bas sur les routes corses en s'imposant avec beaucoup d'opportunités à Ajaccio. À mon avis, Backlund est plutôt la carte que va jouer Alain Galopin. Bon, excuse-moi, je l'ai dit quand même parce qu'il ne voulait pas que je le dise.
À propos d'Andy Schleck, j'ai cru apercevoir tout à l'heure, lorsque l'on arrivait dans les faubourgs de Lyon, une certaine demoiselle qui ressemblait bel et bien à la fiancée d'Andy Schleck dans un gros 4x4 blanc aux vitres teintées, immatriculé au Luxembourg, avec deux vélos de la marque du fournisseur de l'équipe Radio Shack à l'arrière de ce 4x4. Je pense qu'Andy Schleck va avoir du renfort dans les jours qui viennent, du renfort galant.
Ah bah oui, ça fait du bien hein, d'être ravitaillé comme ça en cours d'étape.
Non, on a de la chance quand même avec l'inspecteur Adam.
Oui, l'inspecteur Adam mène l'enquête. Il est très, très, très perspicace. Il ne rate rien, il ne loupe rien. 67 km de l'arrivée, 3 minutes 53 d'avance. On va se retrouver dans quelques instants sur RMC dans l'Intégral Tour. À tout de suite.
RMC, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
La 14e étape est au programme des coureurs aujourd'hui. En attendant le Ventoux demain, aujourd'hui, une longue balade de 191 km entre Saint-Pourçain-sur-Tulle et Lyon. Nous sommes pas très loin des coteaux du Beaujolais maintenant. Vous savez, Lyon, c'est la ville aux trois fleuves. C'est le pape hein, qui disait ça. Le Rhône, la Saône et le Beaujolais. Il y en a trois qui coulent à Lyon. Faites vos jeux, hein, celui que vous préférez.
Quelque chose me dit que tu te jetteras dans le dernier nommé ce soir.
Voilà, exactement. Alors, Fred, on va faire un point. Non, d'abord, on va aller faire un tour à Charletti parce que Christophe Lemaître vient de disputer sa série du 100 mètres fixe.
Une série remportée sans surprise, heureusement d'ailleurs, en 10 secondes 26 seulement.
Oh, c'est pas terrible ça.
Départ encore calamiteux de Christophe Lemaître. Ça commence à être inquiétant parce que c'est pas la première fois qu'il nous fait ça cette saison, c'est pas encore réglé. Et pour la finale de tout à l'heure, avec Jimmy Vico qui va certainement se qualifier d'ici quelques instants, à mon avis, ça peut se compliquer sérieusement pour Lemaître. En tout cas, il va falloir qu'il règle ça. Il a une heure pour régler le départ. Il le travaille depuis des semaines et des semaines à Aix-les-Bains. Je suis pas sûr qu'en une heure il arrive à tout remettre en place. Enfin bon, on va voir ce que Jimmy Vico d'ici quelques instants nous donne sur sa série. Et puis il y a le triple sommet également qui a commencé avec Teddy Tamgo qui d'entrée a assommé le concours avec un premier bond à 17 mètres 10. Voilà, donc pour l'instant c'est pas mal, hein. C'est pas mal,
sauf pour Christophe Lemaitre, mais enfin en finale, face à Jimmy Vico tout à l'heure, ce sera sans doute autre chose.
On verra.
Merci Fix, à tout à l'heure. Allez, retour à la course ici, cette 14e étape du Tour de France. On va faire un point complet, mon cher Fred, c'est le top course.
RMC Top Course.
Avec à 65 km de l'arrivée, passage au sommet de la 4e côte de la journée, ou à des côtes de 4e et 3e catégorie. Aujourd'hui, passage à l'instant au col du Pilon avec Blaise Cadry, le coureur de l'équipe AG2R qui passe en tête. Cadry qui fait partie des 4 Français à l'avant dans ce groupe échappé. Il y a là également Julien Simon, Cyril Gauthier et Arthur Vichot, le champion de France, également présent dans ce groupe de 18 coureurs. L'expérimenté Jens Voigt et son équipier de Radio Shack, Yann Backelands, l'ancien maillot jaune, les Américains Van Garderen et Talansky, l'expérimenté et élégant Écossais David Millar également présent, le rapide Espagnol Rojas ou le Suisse Albazini. Il y a des clients dans cette échappée, mais le mieux classé c'est Talansky, 17e à 13 minutes. Et puis, alors que ce groupe compte 4 minutes d'avance sur le peloton, un homme est parti en contre-attaque. Tout à l'heure, il était accompagné de l'Italien Damiano Cunego. C'est le champion de Hollande, Johnny Hogerland. Go Johnny Go. Il court un peu à contre-temps, souvent n'importe comment, Johnny Hogerland, mais ça peut payer des fois. On se souvient de lui atterrissant dans les barbelés après avoir été percuté dans une voiture en direction de Saint-Flour. C'était il y a 2 ans, alors qu'il était échappé en compagnie notamment de Thomas Vauclair et de Luis Leon Sanchez. Johnny Hogerland a mis full gaz, comme disent les anglo-saxons, plein gaz, plein pétrole, pour revenir sortir du peloton alors qu'il comptait 3 minutes de retard, revenir sur le groupe d'échappés. Ça semblait vain, ça semblait mission impossible, mais Johnny nous fait une Johnny aujourd'hui. Il pointe à 50 secondes désormais du groupe de 18. Ce sera peut-être lui le héros de la journée. Ce mec est un personnage de BD, un héros de dessin animé, Johnny Hogerland, maillot de champion de Hollande sur les épaules.
Voilà, un homme qu'on reconnaît souvent parce qu'il a des balafres de tous les côtés.
Il est génial.
C'est évidemment les traces de son séjour dans les barbelés de Saint-Flour dont tu nous parlais il y a quelques instants. Puis je crois qu'il a même pris une autre gamelle en début de tour.
Oui.
Qu'il a sérieusement amoché, mais en tous les cas, il a le moral et c'est un sacré coursier. Tiens, un autre sacré coursier est avec nous. Hier, il a fait bande à part, il a dîné seul à une table. C'est le privilège des champions du monde d'un autre côté, Fred. Hein.
Oui, sur son estrade, effectivement. Il avait sa petite cour face à lui, quelques serveuses également qui lui étaient toutes dédiées. Oui, c'est Luc Leblanc qui, effectivement, avec sa chemise au liseré de champion du monde hier, a dégusté des margots, des spécialités locales. Et qui aujourd'hui, du coup, a failli manquer le départ.
Voilà, il a failli manquer le départ.
Non, pas du tout. C'est que j'ai pas pris la bonne route. Mais
d'accord.
Bon, j'ai roulé un peu plus vite que prévu et je suis arrivé à temps pour le direct avec Cyril, avec Serge Simon et tout ça. Voilà.
Très bien. Donc t'es en pleine forme.
Oh.
Oui. C'est un oui qui dit oui, ça. Hein.
Bon, Lucho.
Oui.
C'est incroyable le monde qu'il y a encore aujourd'hui. Tu viens de faire la route de la course.
Oui. Je pense qu'après la Normandie, la Bretagne, je crois que c'est là où il y a le plus de monde. C'est vraiment incroyable aujourd'hui. Il fait une chaleur épouvantable, étouffante même, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'air. Et je crois que les coureurs s'en ressentent un petit peu, hein, de l'étape d'hier, hein, malgré tout. Mais il y a une belle course quand même. Il y a quand même 17 coureurs devant, hein, c'est 18. Ça, 18 coureurs devant. Et puis voilà, bon, la Sky qui fait le tempo. Mais à mon avis, ça risque d'aller au bout, hein, je pense. Hein, à moins qu'il y ait une équipe de sprinteurs qui mette en route après dans le final. Mais franchement, je crois que les coureurs ont besoin de récupérer un petit peu aujourd'hui quand même.
D'autant que demain, c'est le Ventoux.
Et voilà, donc ils pensent ça.
Quand on est coureur et qu'on voit sur la carte que le lendemain, il va falloir grimper le géant de Provence.
En plus, si tu veux, le fait de faire du boulot aujourd'hui, sachant qu'il y a le Ventoux et l'Alpe d'Huez après, ça fait beaucoup, quoi. Ils pensent au délai.
Il se passe des choses à l'avant de la course, Fred. La moto peut-être, la moto, Georges, est-ce que Georges est en position pour voir quelque chose? Il me semble qu'un homme est en train de s'échapper.
Ça va être compliqué pour eux.
D'accord, Fred.
Oui, une action à l'avant, à 60 km de l'arrivée. Un homme présent dans cette échappée depuis le début de la journée vient de sortir effectivement dans une portion descendante tout à droite. 53-11, le grand gabarit allemand de l'équipe BMC, Markus Burger. Vingegaard et ses chaussures jaunes qui vient de fausser compagnie au groupe de 18. Il n'est pour l'instant accompagné de personne. Position de recherche de vitesse absolue. Il a compris que ça n'allait pas bien vite dans ce groupe qui compte 4 minutes d'avance sur le peloton et sur lequel est en train de revenir le contre-attaquant Johnny Haugerland. Pour lui, ce faux train n'était pas satisfaisant. Il a un équipier dans cette échappée en la personne de l'américain TJ Van Garderen. Et là, il est en train de partir en émissaire, tenter sa chance, pourquoi pas sa carte individuelle.
Voilà qui va déstabiliser le groupe d'échappée, Cyril. Est-ce que c'est une bonne initiative prise par Burgart?
Bon, alors on va décoder. une bonne initiative, je pense que là, il pensait sans doute, et à juste titre, que cet échappé ronronnait un petit peu, parce que dans le peloton, le tempo est relativement faible, mais dans cet échappé également, puisque l'écart ne bouge plus depuis une quinzaine de kilomètres, on tourne toujours aux environs de 4 minutes, et donc il a pensé que cette attaque pourrait relancer cet échappé. Ça n'est peut-être pas une mauvaise action.
Pas une mauvaise idée. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on a un premier écart, Fred, ou pas encore, par rapport au groupe d'échappée pour Burgart?
Oh, ça s'est mis en route, ça s'est mis en branle à l'avant du groupe d'échappée, et Marcus Burgart va être repris dans les mètres qui viennent. On a réagi, notamment les Français, en la personne de Julien Simon. Haugerland est pointé à plus d'une minute maintenant.
On repart à Charletti, les championnats de France d'athlétisme, la série du 100 mètres de Jimmy Vico, fixe.
Avec la balade de Jimmy Vico, 9,97, le vent est régulier, plus 0,9 mètres par seconde, le chrono sera homologué pour la première fois de sa carrière. Jimmy Vico descend sous les 10 secondes, énorme coup de tonnerre et sérieux avertissement à Christophe Lemaître qui a déjoué tout à l'heure dans sa série, seulement 10,26, 9,95, le chrono est ramené à 9,95. Et bien ça y est, ça fait 3 ans que Jimmy Vico court après un chrono sous les 10 secondes. Il a frappé très très fort, Jimmy Vico, dès les séries 9,95. Il a pris un départ canon, il a fait vraiment la balade tout seul dans sa série, très très impressionnant. Christophe Lemaître a de quoi s'inquiéter tout à l'heure en finale, lui qui a complètement raté son départ et qui s'est contenté d'un 10,26 seulement en série. La grande finale, c'est dans une heure.
Très bien, merci Fix. On reviendra avec toi tout à l'heure pour vivre cette finale. Donc le maître va devoir s'employer tout à l'heure s'il veut rester le maître du sprint français. Retour à cette 14e étape du Tour de France. Fred, on a un petit peu des nouvelles des compositions des divers groupes. Est-ce que tout est rentré dans l'ordre à l'avant de la course?
Effectivement, 18 échappés toujours malgré l'offensive de Marcus Burgart il y a quelques instants. Le groupe est reconstitué avec 4 minutes 15 d'avance sur le peloton à 57 km de l'arrivée. On rappelle que dans ce groupe d'échappés, il y a 4 Français. Julien Simon chez Sojasun, Blaise Cadry pour AG2R La Mondiale, Cyril Gauthier, le breton de la formation Europcar, et le champion de France en titre de la FDJ.fr, j'ai nommé Arthur Vichot. Il y a là également les expérimentés Jens Voigt, le vétéran de ce Tour de France à 41 ans. David Millar, l'Écossais, est là également. Son coéquipier américain Talansky chez l'équipe Garmin. Talansky qui est le mieux placé au général dans cette échappée. Il est 17e ce matin à 13 minutes de Christopher Froome au classement général. Également présent dans cette échappée, l'américain Van Garderen ou le Suisse Albasini. Les Espagnols Herviti et Rojas représentent la Movistar, les coéquipiers d'Alejandro Valverde qui ont passé une journée noire hier. Aujourd'hui ça va beaucoup mieux. On est à 56 km de l'arrivée. Ce groupe de 18 compte 4 minutes 15 d'avance sur le peloton. Et sachez que l'intercalé hollandais Johnny Haugerland, qui est en chasse patate littéralement, pointe désormais à plus d'une minute. Il aura du mal à rentrer sur l'avant de la course.
Et oui, l'accélération a été peut-être fatale à Haugerland, l'accélération de Burgart tout à l'heure et la réaction derrière du groupe d'échappée Haugerland qui va passer une journée difficile. C'est toujours délicat d'être en chasse patate comme ça, Lucho. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans une telle situation entre un groupe d'échappée et le peloton?
Oui, ça m'est déjà arrivé, mais bon, j'insistais un petit peu pour voir si j'arrivais à réduire l'écart avec les échappés. Et à un moment donné, si je voyais vraiment que ça revenait pas, ben je me relevais complètement et j'attendais le peloton parce que c'est un effort inutile. Après, il reste quand même une semaine de Tour de France. Il a le Ventoux demain et l'Alpe d'Huez après-demain. Donc, à la limite, s'il voit que dans à peu près 10 km, il n'arrive pas à réduire l'écart et que l'écart entre lui et le groupe d'échappée augmente, il vaut mieux s'en tenir à revenir au chaud dans le peloton du maillot jaune.
C'est exactement ce qu'il est en train de faire, Johnny Haugerland. Il était revenu à 45 secondes. Là, l'écart est 1 minute 20 et il est en roue libre en train de discuter avec son directeur sportif chez Vacances Soleil, Johnny Haugerland, qui court parfois comme un âne, il faut bien le dire. Il est parti.
Ça me faisait penser à un coureur à l'époque, tu sais, un Suisse, Wegmüller. Thomas
Wegmüller.
Ah oui, oui. Exact. Quand on était échappé avec lui, il n'y avait même pas besoin de prendre un relais. On était sûr d'arriver avec lui et puis de gagner. Si on était deux, on était sûr de gagner.
Ouais,
on est dans un fauteuil à chaque fois.
Il y a des coureurs comme ça qui ont la science de la course et puis il y en a un peu moins. Oui. On ne va pas se moquer, il est valeureux, Johnny.
Ouais, 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 sympa. Ouais, ouais.
On a champion de Hollande quand même.
Notre héros il y a deux ans. Hein, c'était un garçon qui, après sa gamelle et sa balade dans les barbelés, avait héros mis malheureux. Le feu au Tour de France.
Héros malheureux, exact. On recevait l'autre jour dans ce studio Philippe Bouvatier, qui restera célèbre pour avoir manqué l'arrivée à Gusenège alors qu'il était échappé avec Robert Millard et qui semblait capable de remporter le plus grand succès de sa carrière. Erreur d'aiguillage, et bien Johnny Haugerland, dans l'imaginaire du public, c'est celui qui a fini dans les barbelés. Il emporte d'ailleurs encore les stigmates sur sa jambe. Il a des cicatrices de ses blessures en direction de Saint-Flour il y a deux ans.
Très bien. Oui,
mais on peut se poser quand même un certain nombre de questions.
C'est-à-dire Cyril, on va vite retrouver Georges, il est sur la moto, il est à côté d'un directeur sportif, ensuite tu auras la parole. Georges.
Exact, on se rapproche de la voiture Argo Shimano avec le directeur sportif Christian Guiberto. Christian, vous suivez Simon Geschke, votre coureur dans cette échappée. Vous jouez quoi? Vous jouez l'échappée ou le sprint tout à l'heure avec Marcel Kittel?
Non, maintenant c'est l'échappée. Dans un premier temps, on jouait pour John aujourd'hui. Mais bon, ça a été vraiment une course incontrôlable. Donc on a préféré en placer un au bon moment. Et voilà quoi.
Hier, ça a été une journée compliquée pour Marcel Kittel et pour l'équipe.
Oui, compliqué. C'est pour Marcel. Il s'est retrouvé avec un petit problème de chaîne à un mauvais moment. En queue de paquet. Et ça a lancé rapidement. Ouais. Donc voilà, il s'est trouvé piégé.
Il faut pas énerver Cavendish, on a remarqué hier.
Ah, il fait partie des bons sprinteurs, c'est normal qu'il regarde où il est dans le peloton, donc la moindre petite erreur. Voilà, peut-être qu'il regardait où il était justement, mais c'est le vélo ça.
Et est-ce que Marcel Kittel est orgueilleux également? Il a à cœur de prendre sa revanche après ce qui s'est passé hier?
Ah, ils vont peut-être s'expliquer sur les Champs-Élysées désormais. J'espère.
C'est plus une étape, si ça arrive groupé, c'est plus une étape pour John Degenkolb, vous disiez.
Oui, aujourd'hui c'était vraiment un profil très compliqué pour Marcel. Il y avait très peu d'étapes aussi pour les baroudeurs et celle-ci en faisait partie. C'est pour ça qu'il y a eu une bagarre vraiment très très longue. Et donc là c'est parti à 18 et ça va aller au bout.
Merci beaucoup Christian Guiberto, directeur sportif de l'équipe Argo Shimano, donc qui suit Simon Geschke, l'allemand dans cette échappée, mais pour prendre des nouvelles surtout de Marcel Kittel qui a été piégé hier dans l'étape de plaine.
Bon, enfin, ça va, hein, il a quand même 3 victoires d'étape à son palmarès sur ce Tour de France. Marcel Kittel, il n'est pas le plus malheureux du peloton. On l'a retrouvé, mais oui, il est là notre Dédé.
Il est où ce Dédé?
Dédé, dans les monts du Beaujolais, dans les coteaux du Beaujolais. Alors là, on ne répond plus de rien. Ça va, André?
Non, ça va très bien, Christophe, ça va très bien. Bonjour à tous. Oui, non, ça va bien. Pourquoi voulez-vous que les monts du Beaujolais me fassent un effet bizarre?
Je ne sais pas,
plus
moi.
Que ça pour Saint-Ursule.
Ah, quand je vous ai vu hier soir, je me disais qu'effectivement, c'était un bel endroit pour vous arrêter. Hein. Mais bon, on est sérieux. À l'Assemblée des départements de France, on fait la route et on ne s'arrête jamais. C'est ça, c'est le cas aujourd'hui?
On s'est pas arrêté beaucoup, on a eu quelques petites interventions en tout début d'étape, les fameux reçuages sur les routes de l'Allier, et puis progressivement en rentrant dans la Saône-et-Loire, Loire et maintenant le Rhône, ça devient plus simple pour nous. On a des routes qui sont quand même assez larges, de bonne qualité, en tout cas pour des revêtements qui ne souffrent pas trop. Donc on peaufine, à la différence de l'entrée sur Lyon où ça va être un petit peu plus compliqué les 15 derniers kilomètres. J'ai des équipes qui sont dessus et ils sont en train de travailler assez dur parce que l'agglomération lyonnaise, ça dépend pas directement des départements et et les Lyonnais ont fait les choses très bien, mais ils n'ont pas une grande habitude du passage du Tour de France, et ils ont mis un peu des barrières dans tous les sens, là où nous mettons plutôt des bottes de paille pour protéger les îlots et protéger les points saillants pour éviter éventuellement de grosses blessures en cas de chute. Eh bien, dans l'agglomération lyonnaise, ils ont mis des barrières, petites barrières Vauban, ce qui fait qu'on est obligé de les retirer.
Ah oui, parce voilà. qu'il y a danger ouais. là. Il y a danger ouais. pour les coureurs, d'autant qu'il est un peu scabreux le final quand même, hein, tout
oui,
à l'heure pour l'arrivée
oui,
à Lyon.
Oui. Bah, on va dire que dès qu'on rentre dans l'agglomération lyonnaise, les 15 derniers kilomètres, c'est de la route en ville, du tracé urbain, avec les aménagements urbains, des changements de type de revêtement, des îlots directionnels un peu partout, et puis également les deux dernières, enfin, en tout cas la dernière côte, celle de la Croix-Rousse, avec une montée en lacet avec des virages serrés, et puis ensuite en redescente, des virages, des changements de direction encore, des ronds-points, donc pas mal de barriérages et pas mal de choses à faire. En l'occurrence aussi, faire attention aux routes qui, dans un univers très urbain, sont qualifiées de grasses. C'est-à-dire que comme les voitures roulent beaucoup, les hydrocarbures s'y déposent plus facilement que sur route ouverte. Et donc, ça pourrait être glissant un petit peu. Mais ça devrait bien se passer puisque la ligne d'arrivée est quand même la plus longue du tour avec ses 2300 mètres de ligne droite sur 12 mètres de large. On est sur quelque chose de très, très confortable pour le final. Avenue Jean Jaurès.
Et oui, et nous arriverons ici au pied du stade Gerland, l'antre du Lyon, l'antre de l'Olympique Lyonnais. Merci Monsieur Dédé, à tout à l'heure alors, hein, et faites attention, hein. Si je vous vois arrêter, j'aurais compris.
Absolument, à plus tard.
André Bancala de l'Assemblée des départements de France, 15h47, vous êtes sur RMC l'Intégral Tour, on revient dans un instant, 49 km encore à parcourir avant d'arriver justement à Gerland, et 4 minutes 32 d'avance pour nos 18 échappés du jour, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 18h, Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Et jusqu'à 18h, c'est la 14e étape du Tour de France qui nous intéresse. Cette 14e étape qui s'était lancée de Saint-Pourçain-sur-Sioule ce matin en direction de Lyon. Demain, on abordera la grande ascension du Mont Ventoux aujourd'hui. Il y a surtout des côtelettes à avaler. Elles sont 7 et il en reste encore quelques-unes avant l'arrivée. Tout à l'heure, nous sommes à 45 km de l'arrivée et on va faire un point complet. C'est le Top Course et c'est avec Fred.
RMC Top Course.
Avec effectivement 46 km à parcourir, il va rester 3 difficultés. Oh, pas bien méchant, 3 côtes de 4e catégorie en direction de Lyon, avec des côtes qui semblent promises à des coureurs non pas grimpeurs, loin de là, mais plutôt punchers. Et il y en a des coureurs punchers à l'avant de la course. On rappelle que dans ce groupe de 18 échappés, on trouve 4 Français, parmi eux Cyril Gauthier, le coureur de l'équipe Europe Car, Blel Kadri pour AG2R la mondiale, Julien Simon chez Sojasun et le champion de France en titre Arthur Vichot de la FDJ.fr, également présent dans cette échappée qui s'entend parfaitement en ce moment. Les Radio Shack, Backlands et Voigt, l'Écossais David Millard avec son équipier de chez Garmin Andrew Talansky, le Danois Lars Bak, les deux BMC Burgart et Van Garderen, ou le Suisse Albazini, coureur de l'équipe Orica Green Edge. 45 km de l'arrivée, 4 minutes 50 sur le peloton qui laisse filer aujourd'hui. C'est aujourd'hui la journée de transition, c'était pas hier en fait, c'est vraiment aujourd'hui avec ce parcours casse-pattes. Les sprinteurs n'auront pas leur mot à dire ce soir à Lyon.
Oui, c'est une certitude, Cyril Lucho, ça va aller au bout cette histoire. L'enfin, une étape pour les baroudeurs.
Oui, elle va au bout maintenant parce que la réponse c'était au sommet du col de Pilon. Si au sommet du col de Pilon, les équipes de sprinteurs avaient enclenché la poursuite, ça pouvait aller chercher le groupe des 18. Dans la mesure où ils n'ont pas bougé, ça veut dire que l'échappée maintenant va au bout. Donc on a un peloton qui va aller logiquement et tranquillement à l'arrivée. Il n'y aura même plus de points pour le maillot vert parce qu'ils sont 18 à l'avant. Donc il y a la course pour la victoire d'étape et l'étape de transition, on va dire de semi-repos maintenant pour le peloton.
Voilà, c'est pas pour autant qu'on va laisser filer parce qu'il y a un garçon quand même comme Talansky qui n'est pas si loin que ça au classement général et qui va pouvoir peut-être effectuer un beau rapproché. La moto RMC se trouve justement au contact des 18 hommes de tête. On va voir avec Georges si tout ce petit monde continue de bien s'entendre.
Oui, ça continue de bien s'entendre alors qu'on est dans la traversée de la commune des Pontarés où il y a énormément de spectateurs à gauche et à droite de la route. On en a fini avec la descente où l'on était depuis quelques instants. On est revenu juste derrière les échappées où l'on a pu constater que tout le monde était au travail, que ce soit les Garmin, que ce soit les Radio Shack, que ce soit Arthur Vichot ou les mêmes les BMC Belkadri à G2R dans cette échappée. Tout le monde travaille, ça discute quand on est à l'arrière de ce groupe. Donc il y a même une bonne ambiance, on a envie de dire, dans ce groupe où l'on s'est débarrassé de plusieurs bidons pour gagner en légèreté un petit peu sur cette fin d'étape. Mais voilà, on fait attention à bien se ravitailler. À l'instant, Belkadri qui appelle son directeur sportif pour récupérer quelques bidons parce que la chaleur est toujours aussi importante sur cette étape. Donc il faudrait surtout pas avoir un problème d'hydratation. On est sur de longues lignes droites désormais, deux voies pour les hommes de tête qui ont fini avec la descente où ils étaient il y a quelques instants.
Voilà, Talensky, si évidemment l'échappée va au bout et qu'elle conserve ce même genre d'avance, pourrait grignoter deux voire trois places au général et passer devant notamment un certain Alejandro Valverde qui ce matin le précédait. Valverde pour qui malheureusement ce Tour de France continue de jouer de mauvais tours, hein, Fred, hein. Hier on s'en souvient, quasiment 10 minutes de perdu. Aujourd'hui si Talensky lui passe devant, bon, de toute façon bon, il vise plus grand chose au général maintenant.
15e ou 16e,
il est plus à sa prêt. Vous parlez de Talensky, c'est l'une des révélations de ce début de saison, puisque souvenez-vous que sur Paris-Nice il avait porté le maillot jaune et résisté longtemps à des coureurs comme Christopher Froome, Andrew Talensky, qui avait payé sa jeunesse, le prometteur américain de l'équipe Garmin Sharp, qui s'annonce comme un coureur qui visera peut-être un jour le podium ou peut-être la victoire sur le Tour de France.
C'est ce qu'on disait de Van Garderen l'année dernière.
Oui, mais c'est ce qu'on disait de Thibaut Pinot. Il y a une année pour exploser et pour surprendre tout le monde, et puis il y a une année, c'est très classique, hein, comme schéma de carrière, il y a une année pour digérer et pour souffrir également. Ce qui ne tue pas rend plus fort, et avec de la bouteille et de l'expérience, on affronte l'adversité en général de manière un peu plus solide. Laissons le temps au temps.
Exactement, Cyril, Van Garderen et Pinot restent malgré tout des coureurs d'avenir, des coureurs qu'on reverra au premier rôle dans le classement général du Tour de France.
Oui, oui, bah c'est tout à fait logique, hein, lorsqu'on est parmi les meilleurs de sa génération, surtout sur des épreuves comme le Tour de France, on ne peut pas disparaître de la circulation comme ça brutalement. Donc on les reverra, oui, peut-être pas sur cette fin de Tour de France, parce que concernant Thibaut, il est un petit peu touché, on va dire, au niveau mental, mais on le reverra bien sûr. Attendez, il n'a quand même que, parce que lorsqu'on parle du maillot blanc sur le Tour de France, on est dans la tranche des moins de 25 ans. Si on descendait sur la tranche des maximum 23 ans, le classement serait encore différent. Mais maillot, lorsqu'on est capable d'être le meilleur jeune sur un Tour de France de moins de 25 ans, ça veut dire qu'on a le potentiel pour venir dans les 5 premiers, sauf, et c'est là où il va falloir vraiment travailler pour Thibaut Pinot, sauf si on se fait lâcher dans toutes les descentes, quoi.
Mais oui. Et il va falloir travailler là-dessus. Merci Cyril, on va se retrouver dans quelques instants juste après les infos de 16h. Sachez qu'il reste encore 41 km 300 avant l'arrivée ici devant le stade Gerland, et que l'avance de nos 18 échappés est désormais portée à 5 minutes 08. On peut vous le dire officiellement, c'est dans ce groupe des 18 qu'il faudra trouver le vainqueur de l'étape du jour, à suivre évidemment dans quelques instants.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
La 14e étape de la Grande Boucle au programme cet après-midi, Saint-Pourçain sur Soule vers Lyon, 191 km au programme. Et pour la première fois depuis le début de cette Grande Boucle, eh bien les baroudeurs vont enfin tirer leur épingle du jeu, puisque c'est l'un des baroudeurs qui va s'imposer tout à l'heure à l'arrivée à Lyon, l'un des baroudeurs à prendre dans le groupe de 18 qui s'est échappé et qui compte désormais une avance substantielle. On fait tout de suite un point sur la course, c'est le Top Course et c'est avec Fred. Et évidemment,
RMC Top Course.
Avec 34 km à parcourir en direction de Lyon, sous le soleil du département du Rhône, toujours 18 coureurs échappés depuis le début de l'étape. Elle a mis du temps à prendre du champ, cette échappée, mais elle y est parvenue. Désormais 5 minutes 50 d'avance pour les 18 fuyards, où l'on retrouve 4 Français. Julien Simon de l'équipe Sojasun, Belkadri, le coureur de l'équipe AG2R La Mondiale, Cyril Gauthier, le breton de l'équipe Europe Car, et le champion de France, Arthur Vichot, info chez fdj.fr. Notez la présence également dans ce groupe de 18 des deux Radio Shack, Bakelands, l'ancien maillot jaune, et Jens Voigt, bientôt 42 ans, de BMC, Burgart et l'américain Van Garderen, de Garmin, David Millar, l'écossais, et celui qui est le mieux placé au général ce matin, c'est l'américain Andrew Talansky, 17e à 13 minutes de Christopher Froome ce matin, qui est en train d'effectuer un beau rapproché au classement général. Également présent dans ce groupe, les Espagnols Herviti et Rojas pour Movistar, ou le Suisse Albazini chez Orica Green Edge.
Alors tout à l'heure, de ce groupe de 18, un homme avait tenté de s'échapper, en tous les cas de sonner la charge, c'était Marcus Burgart. Depuis, il a été rattrapé, et depuis, Georges, sur la moteur MC, on s'entend bien. Le rythme n'est pas non plus très très violent là, hein, dans l'échappée.
Non, non, effectivement, mais c'est comme on l'expliquait tout à l'heure, c'est vrai qu'on les voit discuter ensemble, notamment les coureurs de l'échappée. On a les mains sur les cocottes et on parle tranquillement. Donc c'est vrai que la vitesse n'est pas très importante, alors qu'on se rapproche de la cinquième difficulté de la journée, la côte de Lausanne. Mais tout le monde travaille dans cette échappée. C'est vrai qu'on voit beaucoup les BMC notamment être à la planche depuis le début de cette étape, alors qu'on peut constater également que dans cette échappée, il y a peut-être Yann Bakelands, le Belge ancien porteur du maillot jaune, qui visiblement a quelques problèmes gastriques, qui en tout cas ne se sent pas très bien dans ce groupe. Il est redescendu chercher des bidons pour Jens Voigt il y a quelques instants. Le Belge qui ne semble pas être dans une grande journée, il a peut-être plutôt aidé l'Allemand ce groupe de tête qui s'étire un petit peu, parce qu'on est en train de se rapprocher des premières pentes de cette ascension. Dans toutes les ascensions de la journée, d'ailleurs, il faut le remarquer, on a vu une foule immense, une ferveur populaire incroyable. On se serait cru dans les étapes des Pyrénées ou des Alpes, avec des fumigènes et des supporters qui prenaient une large partie de la route. Ça a beaucoup fait stresser les membres de l'organisation, mais pour l'instant tout s'est bien passé, et on espère que ça va continuer comme ça dans ces chaudes routes du Rhône, autant par la température que par l'attitude des supporters.
Et comment tu sais que Bakelands a des problèmes gastriques? Ça se voit comme ça? Il a pas l'air bien?
Ouais, non, il a pas l'air bien.
Alors c'est quoi Georges? Est-ce que quand on est échappé et que justement on a mal au bide, on a un besoin pressant, est-ce qu'on s'arrête et que les autres attendent? Dis-nous tout. J'ai un souvenir personnellement d'une étape galère pour un coureur échappé qui avait terminé l'étape avec des sopalins dans son cuissard.
On s'arrête pas pour faire popo sur la route, hein. On s'arrête pas pour faire popo, Georges.
Attendez, avant tout, j'attends d'avoir le feu vert. Est-ce qu'on rentre dans les détails? Vous voulez vraiment qu'on rentre dans les détails?
Un petit peu de détails, pas trop non plus, pas trop non faux.
C'est vrai qu'on connaissait de la part des coureurs une facilité à faire des besoins naturels,
c'est-à-dire à faire pipi en route, ouais,
voilà. À même le vélo, en roulant. On ne connaissait pas l'autre manière de se vider, on va dire, pour l'autre manière, pour les problèmes gastriques. Vous m'aurez tout à fait compris. Yann Bakelands qui avait des petits problèmes et qui a continué de rouler. Il a baissé son cuissard et Alain Galopin est venu avec un bidon pour faire une petite toilette à son coureur.
Et bon, le pare-brise de la moto, ça va?
Disons qu'on s'est pas placé dans le vent, on a regardé le sens des drapeaux avant pour ne pas se retrouver dans la bordure et pas avoir de problème. Mais en tous les cas, on peut dire que ça sentait pas très très bon.
Oh, mais quelle horreur! Oh non, mais voilà les détails, voilà Georges qui donne des détails. L'autre chose, que ça t'est déjà arrivé, toi?
Non.
Ah oui,
non, mais j'ai jamais pissé sur le vélo, j'y arrivais pas. Oh, il fallait que je m'arrête. Ah non, j'y arrivais
pas. C'est pas vrai.
Ah non, j'y arrivais pas.
Oh, c'est facile pourtant. J'y arrivais pas. Pisser tellement.
J'ai jamais fait mon gros pototo.
Mon gros pototo.
Ok.
D'accord. Non, Cyril, ça a dû lui arriver. Cyril a peur de rien, lui.
Non, ça ne m'est pas arrivé dans les conditions qu'évoque notre ami Giorgio à l'avant de la course. Bon, faire ses besoins naturels, on va dire uriner sur le vélo, ça ne me posait aucun problème, sauf qu'il fallait pas me toucher. Voilà, donc
je prenais
une descente ou un faux plat descendant, et puis je faisais ça tranquillement sans aucun problème. Vous remarquerez d'ailleurs que c'est on voit de moins en moins les coureurs le faire, parce que la façon dont sont faits les cuissards, le design des cuissards, eh bien pratiquement on ne
peut plus le faire du vélo.
Pas pratique, ouais.
Donc on est, mais comme tout le monde maintenant s'organise pour arrêter en même temps, c'est d'ailleurs une des raisons. Mais j'ai quand même connu sur un tour de Lombardie un coureur qui a eu des problèmes énormes alors qu'il était devant pour la gagne. C'était Charlie Mottet. Et effectivement, comme l'a fait Alain Galopin, on a pris des bouteilles de Vittel pour laver tout cela. Je peux vous dire que le cuissard est resté dans les vestiaires.
Hein. J'imagine.
Et que les mécanos ont vite passé le jet d'eau sur le vélo.
Très voilà. Bien. Voilà, c'était notre séance un peu scato.
Nous
allons passer à autre chose maintenant.
Oui, mais ça fait partie des choses de la vie. Et je ne vois pas pourquoi elles sont malsaines à dire.
Ah, mais non, mais elles ne sont pas malsaines à dire. Il faut raconter. Nous racontons tout sur RMC. Fix, lui, est à Charletti. Je peux imaginer qu'il n'a pas ce genre de problème pour les championnats de France d'athlétisme.
Non, pour l'instant, tout se passe bien. Tout le monde va bien. Tout le monde est en bonne santé, même en très très bonne santé. Les perfs pleuvent ici à Charletti. Une finale du 100 mètres haies de folie il y a quelques instants, remportée par Cindy Bio, qui avait déjà fait sensation lors des séries. Et bien, elle a une nouvelle fois pulvérisé son record perso. Le chrono à l'arrivée, 12 secondes 59 centièmes, meilleure perf européenne de la saison pour Cindy Bio, qui a amélioré tout simplement en deux courses son record perso de plus de 3 dixièmes de seconde.
C'est énorme.
Je crois que c'est tout simplement la deuxième meilleure performance française de tous les temps. Donc pour Cindy Bio, il faudra que je vérifie ça. Ouais, exactement, exactement. Qui tient, qui a failli perdre son record aujourd'hui, hein, 12,56, 12,59 pour Cindy Bio. Et les deux autres filles qui complètent le podium, Alice Decaux et Reina Flor Okori, qui sont toutes les deux descendues également sous les minima. Donc les trois filles, Bio, Decaux, Okori, qualifiées pour les mondiaux de Moscou. Et puis à l'instant, le triple saut qui s'emballe également. Teddy Tamgo qui était en tête encore il y a quelques instants avec 17,10. Et Johan Rapinier qui a pris les commandes avec 17,30. Johan Rapinier vient de réaliser les minima à son tour pour les mondiaux de Moscou. On se régale et c'est pas terminé. Il y aura la finale du 100 mètres féminin dans quelques instants et la finale du 100 mètres messieurs à 16h35. Le duel Vico, le maître. On rappelle que Vico en série tout à l'heure a tapé à 9,95. Il est devenu le troisième français de l'histoire à descendre sous les 10 secondes.
Et ça sera donc à 16h35 dans 20 minutes. On suivra cette finale avec toi tout à l'heure. Merci Fix. Le record dont tu parlais, il est toujours entre les mains d'une certaine Evangépé, non, c'est
Monique
ça
Evangépé, hein,
pas la nôtre, mais la sœur.
Eh oui, puisque Maryse faisait de la hauteur, notamment, elle a fait d'autres épreuves. Mais c'est sa sœur qui était spécialiste du 100 mètres haies. Son record de France a bien failli tomber à Charletti il y a quelques instants.
Parfait, à tout à l'heure, Fix, en direct de Charletti pour les championnats de France d'athlétisme. Retour ici sur la route du Tour. Nous nous rapprochons de Lyon. Nous sommes à un peu moins de 30 km de l'arrivée maintenant. On va rappeler qu'il y a 18 hommes en tête, Fred, et qu'ils vont sans doute aller au bout car leur avance continue de grimper. Ça peut prendre des proportions intéressantes.
6 hein. minutes bientôt à 30 km de l'arrivée, 29 exactement. Le groupe de tête qui continue sa progression avec, il y a quelques instants, une nouvelle attaque à l'avant de Marcus Burkhardt, l'allemand de l'équipe BMC. Ils sont deux coureurs de cette équipe américaine BMC à l'avant avec Burkhardt donc et Van Garderen. Burkhardt qui a tenté donc une deuxième banderie pour réveiller l'échappée ou pour tenter sa chance. Eh bien sa chance, il ne l'a pas encore prise. Nul doute qu'on le reverra en attaque, à l'attaque dans les 29 derniers kilomètres. Rappelons que dans ce groupe de 18, on a 4 Français. Julien Simon, Blaise Cadry, Cyril Gauthier et Arthur Vichot. Outre Burkhardt, il y a là Van Garderen, il y a là Bakkelandt et Jens Voigt, les deux coureurs de Radio Shack. Également présent le Danois Lars Bak, les deux coéquipiers de Garmin David Millar et l'Américain Andrew Talansky, les deux coéquipiers de Movistar Hervitier Rojas, ou encore l'Espagnol, le Suisse pardon, Michael Albazini, dangereux coureur de l'équipe Orica Green Edge. Cohésion toujours bien présente à l'avant, 28 km de l'arrivée et 5 minutes 50, dernier pointage en faveur de ces fuyards.
Alors est-ce que 18 hommes c'est un bon chiffre pour aller jusqu'à l'arrivée ou est-ce qu'il va se passer des choses Cyril et que certains vont tenter de s'échapper? 18 c'est beaucoup quand même, non?
18 c'est beaucoup, il va y avoir une course entre 18 coureurs qui vont s'attaquer, contre-attaquer, sachant que nous avons 4 équipes représentées avec 2
deux coureurs. Donc ils vont sans doute essayer de faire sortir un des deux coureurs de l'équipe. Alors on a vu que Backlund avait quelques soucis. Backlund qui est accompagné de Voigt. Voigt dont on sait qu'il est quand même parti de bonne heure ce matin. Alors est-ce que Backlund va retrouver son coup de pédale avant la fin? Ça n'est pas évident, parce que lorsqu'on a ce genre de petits problèmes, on se déshydrate d'une part, mais souvent on manque de force. Donc il va y avoir des offensives dans le final, car il y a quand même deux hommes qui semblent aller plus vite que les autres. C'est Roras, hein, qui a un équipier avec Emmanuel Herviti, et puis Albazini qui va également très vite, mais lui il est isolé. Donc il va y avoir une course de mouvement. Alors à signaler que pour le classement par équipe, AG2R fait une demi-bonne opération, puisque il n'y a pas de Saxo à l'avant, il n'y a pas de Belkin, les deux premières équipes. Donc AG2R pourrait reprendre entre 5 et 6 minutes et donc se rapprocher des deux équipes de tête. Sauf que Radio Shack et Movistar ont deux hommes et qu'ils vont perdre là aussi la même des bourres dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va retrouver vraisemblablement 5 équipes en moins de 6 minutes au classement général.
Et c'est important, le classement par équipe, tous les directeurs sportifs, tous les managers d'équipe le regardent avec beaucoup d'intérêt d'ici la fin du tour. Et évidemment, rien n'est encore joué. 27 km de l'arrivée. Fred, on va donc rappeler la composition de ce groupe. S'intéresser aux Français qui sont dans ce groupe.
Oui,
qui peuvent aussi viser quelque chose.
Hein. Avant cela, attention à Markus Burgart quand même. On en parlait de ce grand gabarit allemand de l'équipe BMC, âgé depuis quelques jours de 30 ans tout pile. Il a déjà remporté une étape du Tour de France. C'était en 2008. Il portait le maillot Columbia et s'était imposé. On est à Lyon cet après-midi. Il s'était imposé à Saint-Étienne au terme d'une longue échappée.
Ah, Saint-Étienne, c'est pas Lyon.
Attention. Peut-être qu'il va mettre les deux villes à égalité. Hein, partout.
Peut vexer notre conseiller scientifique et géographique ici, Gilles Bédine, qui nous donne tous les renseignements sur la région lyonnaise et sur également les monts du Forez. Il est moins bien sur Saint-Étienne, mais un peu comme Édouard G d'ailleurs. Allez, on va repartir à Charletti, les championnats de France d'athlétisme, avec une belle finale qui se profile, Fix.
Oui, la finale du 100 mètres féminin avant celle du 100 mètres messieurs d'ici un petit quart d'heure. Le 100 mètres féminin, bien sûr, c'est la spécialité notamment de Myriam Soumaré, qui est bien sûr la favorite de cette finale. Elle sera au couloir 4, elle est au couloir 4, entourée par Céline Distel au 3 et Ayodele Ikwesan au couloir 5. Myriam Soumaré qui est toujours à la recherche des minima qui sont fixés à 11 secondes 17, et pour l'instant aucune Française n'a réalisé les minima sur 100 mètres. C'est parti pour tout le monde avec un bon départ de Myriam Soumaré, mais attention, la menace est encore présente avec Céline Distel. Myriam Soumaré qui va devoir se battre pour aller chercher le titre de championne de France. Ça va être à l'arraché pour Myriam Soumaré, mais le chrono n'est pas au rendez-vous. 11 secondes et 32 centièmes avec un vent légèrement favorable, mais en tout cas 11.30, le chrono est revu à la baisse. Eh bien, ça ne sera pas encore pour cette fois, et pour l'instant pour Myriam, eh bien, il n'y a pas de billet pour les mondiaux en individuel. Sur 200, elle ne les a pas fait, les minima, ça sera peut-être pour demain. Ça va être compliqué pour même pour l'avoir peut-être sur 100 et 200 à Moscou d'ici un mois.
Eh ouais, elle ne va pas se consoler avec ce titre de championne de France. Ce qu'elle veut, c'est aller au championnat du monde.
Eh oui, bien sûr, c'est l'objectif de tous les athlètes présents ce week-end à Charlotte.
Merci Fix, à tout à l'heure. Dans un quart d'heure, la finale du 100 mètres masculin. Juste un petit point avant de se quitter quelques instants. Ça commence à flinguer à l'avant de la course, Fred.
25 km de l'arrivée, c'est le moment choisi par Michael Albazini, le Suisse de l'équipe Orica Green Edge, pour tenter de fausser compagnie à ses 17 compagnons fuyants. Il est en train d'allumer les premières escarmouches, le Suisse, coureur d'expérience, coureur rapide, 25 km de l'arrivée, désunion dans le groupe d'échappée, ce groupe qui compte 6 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune.
16h21, à tout de suite sur l'intégral tour sur la route en direction de Lyon. Nous sommes à 25 km de l'arrivée.
RMC Intégral Tour, Christophe Cessieux.
Encore un peu plus de 20 km à parcourir avant l'arrivée de cette 14e étape tout à l'heure au pied du stade Gerland. Entre de l'Olympique lyonnais, 18 hommes sont en tête avec une avance considérable, 6 minutes 13 au dernier pointage sur l'avant-garde du peloton. Et dans ce groupe d'échappés, on ne s'entend plus très bien, Fred, et il y a des attaques de toutes parts.
Évidemment, des attaques pour l'instant un peu en facteur, comme disent les coureurs, en en seconde main. On va dire que ce sont des attaques pour tester la concurrence, tester ses compagnons d'échappée. On a vu Albasini se faire reprendre tout à l'heure le Suisse d'Orica. On a vu David Millar, l'Écossais de Garmin, contrer sans insister. Il a rapidement été pris en chasse. Et puis Blel Kadri, l'un des Français, a réussi à essayer de tirer son épingle du jeu sans vraiment convaincre. Il a attaqué de devant. Pour l'instant, on ne semble pas décidé à vouloir s'isoler tout seul, si loin de l'arrivée, à 21 km 500 de l'arrivée. L'avance de ces 18 là est toujours conséquente. 6 minutes 20, ils ont gagné la partie, c'est sûr. C'est un de ces échappés qui s'imposera tout à l'heure ici à Lyon.
Très bien, la moto RMC justement est au contact de ces échappés, juste derrière eux, avec Georges Quirino et Marc Comp. On va de nouveau voir ce qui se passe à l'avant de cette course. Est-ce que ça s'entend bien? Ça s'entend plus vraiment, hein, Georges, j'ai l'impression.
Non, ça s'entend plus vraiment, alors que les échappés rentrent dans la commune de Tassin, la demi-lune. On a ralenti l'allure entre les 18 qui maintenant s'observent énormément, un peu comme des pistards. On les a vus aller à droite de la route, à gauche, à droite, à gauche, à droite, alors qu'on était sur des lignes droites, chacun pour pouvoir s'observer. On pourrait se croire dans le final, déjà dans les derniers kilomètres, comme avant un sprint. Mais là, on est tous, ils sont tous en train de voir le niveau, alors que ça accélère à nouveau dans le groupe de tête. Ça ne fait que ça ne fait que relancer, s'arrêter, relancer, s'arrêter, pour voir un petit peu eh bien l'état de forme de chacun dans cette échappée, et pouvoir ainsi planter la bonne banderille au bon moment.
Très bien, très bien. Parmi les coureurs, on a vu tout à l'heure David Millar se mettre en évidence. Fred, il a accéléré, c'est un sacré client, en tous les cas un ancien grand spécialiste du chrono. Est-ce qu'il a une chance de s'échapper comme ça à la pédale? Est-ce que c'est possible?
Il sait faire, il nous l'avait montré l'an passé en direction d'Annonay, c'était en Ardèche. Il a déjà, si mes comptes sont bons, déjà 4 étapes du Tour de France à son actif. Il avait commencé très jeune, hein, en l'an 2000, vainqueur du prologue du Futuroscope. Il a désormais 36 ans, le coureur qui est désormais l'un des chantres de la lutte antidopage, lui qui s'était fait pincer dans l'affaire Cofidis, qui avait tout avoué, qui a même écrit un livre sur ses pratiques, sur son mal-être. Il avait tout essayé, disait-il. David Millar, aujourd'hui coureur, capitaine de route au sein de la formation américaine Garmin Sharp. Il a dans cette échappée un coéquipier en la personne d'Andrew Talansky, jeune talentueux coureur américain. Pour l'instant, Talansky effectue un beau rapproché au classement général, puisque l'américain était à 13 minutes 11 de Christopher Froome ce matin, et l'échappée compte 6 minutes 30. Ça sent le rapprocher pour ce prometteur coureur à tout faire de l'équipe Garmin Sharp, Andrew Talansky.
Et il pourrait se rapprocher du top 10 de ce Tour de France, puisque il y a quand même, non, il y a encore du beau monde, mais en tous les cas, ce sera de toute façon un beau rapproché. Les Français, ils sont quatre quand même dans ce groupe de 18. On sait qu'on est toujours à la recherche d'une victoire d'étape française depuis le début de cette grande boucle. Il y a là donc Gauthier de la formation Europcar, Vichot, le champion de France pour la FDJ.fr, Blel Kadri, le coureur de la formation AG2R La Mondiale, et Julien Simon, le leader de la formation Sojasun. Lucho, quel est celui qui est selon toi le plus de chance de remporter l'étape aujourd'hui?
Arthur Vichot, il m'a l'air très très bien. Bon, après c'est vrai que les quatre Français ont un très très beau potentiel. De toute façon, ils vont pas avoir le choix que d'essayer d'attaquer avant.
Il faut pas que ça arrive au sprint pour eux, des quatre.
Oui, oui, je pense que l'idéal pour eux, c'est d'aller
le plus rapide peut-être du groupe, c'est Julien Simon.
Oui, c'est vrai. Ouais, Julien Simon
qui a failli porter le maillot jaune, qui était notre invité d'ailleurs l'autre soir dans l'Intégral Sport, qui peut, lui, il a plutôt intérêt à ce que ça arrive au sprint du coup, Cyril.
Bon, il aurait à mon avis intérêt à attendre le sprint, parce que les hommes rapides, on a dit Rojas tout à l'heure, Albasini, je le vois faire beaucoup d'efforts puisqu'il a attaqué une première fois, mais quand il a été contré, s'est fait contrer par Millar, c'est lui qui a bouché le trou sur Millar, et on le revoit sans arrêt relancer pour l'un des coureurs les plus rapides de ce groupe. Ça fait quand même beaucoup d'efforts avant les 200 derniers mètres.
Oui, il faut éviter d'en faire comme ça dans le final, parce qu'on les paye dans le sprint.
Tout s'additionne, il n'y a pas de soustraction.
Pour ceux qui sont pas sprinteurs, bon, l'idéal c'est d'essayer de surprendre un petit peu les sprinteurs du groupe, d'échapper et d'essayer de partir aux 5 km. parce qu'à ce moment-là, tout le monde va se regarder un petit peu. Il reste 5 km, il va y avoir des hésitations et ça peut éventuellement aller au bout. Je vois bien un Millard attaqué au 5 bornes.
Ouais, on verra ça. David Millard.
Ce sera de toute façon une question d'opportunité en fonction des coureurs qui sont en individuel et de ceux qui sont par équipe de deux.
Il y a deux petites côtelettes quand même avant l'arrivée. On les a repérées tout à l'heure. C'est pas exceptionnel, mais ça
peut permettre de sortir. Et derrière, surtout la dernière, il y a une descente sur laquelle vous pouvez continuer à creuser les écarts parce que ça sera difficile de s'organiser.
Très bien. Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de l'intégral tour. On n'oublie pas non plus l'athlétisme. La finale du 100 mètres des championnats de France. Vico Lemaître, c'est dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h. Intégral tour. Christophe Cessieux.
Un peu plus de 15 km à parcourir encore avant l'arrivée de cette 14e étape. Et ça flingue de tous les côtés dans l'échappée. Les 18 hommes de tête qui tentent tous à tour de rôle de s'échapper, Fred.
L'avant-dernière difficulté de la journée, la côte de la Duchère, à un peu plus de 15 km de l'arrivée. On a vu une belle attaque de Yann Bakelands, l'ancien maillot jaune. Et actuellement, c'est TJ Van Garderen, le coureur américain de la BMC, qui tente de partir alors que David Millard, l'un des coureurs échappés, rend les armes. Ce n'est pas lui, l'Écossais de 36 ans, qui s'imposera tout à l'heure à Lyon. Et il est en train de faire le break, TJ Van Garderen, en train de faire le ménage dans ce groupe d'échappés.
Très bien, nous partons tout de suite pour Charletti. Finale du 100 mètres des championnats de France, le duel tant attendu entre Jimmy Vico et Christophe Lemaître, Fix.
Ouais, ça va être dans quelques instants. Le public se régale ici à Charletti. Vous entendez la claque du public pour Teddy Tamgo, qui va tenter son cinquième essai au triple saut. Teddy Tamgo, qui est aux commandes du concours avec un bond à 17,49 m tout à l'heure. Voilà, Teddy Tamgo chaudement encouragé. Ah, ça va être mordu. Ça va être mordu trop gourmand. Teddy Tamgo, il a mordu sur la plasticine. Le calme va se refaire tout doucettement ici à Charletti avant le grand moment. Le grand moment que tout le monde attend ici, c'est le point d'orgue du week-end, cette finale du 100 mètres. Messieurs, le duel entre Christophe Lemaître et Jimmy Vico. Christophe Lemaître, couloir numéro 3. Jimmy Vico, couloir numéro 5. Jimmy Vico qui a créé la sensation tout à l'heure, on le rappelle, en remportant sa série en 9 secondes 95 centièmes. Pour la première fois de sa carrière, Jimmy Vico est descendu sous les 10 secondes. Il est devenu le troisième Français de l'histoire à descendre sous cette barre mythique des 10 secondes. Le plein de confiance pour Jimmy Vico avant cette finale du 100 mètres face à Christophe Lemaître, qui n'a pas été très très convaincant en série. Seulement une victoire très modeste en 10-26 après une nouvelle fois un départ calamiteux. La mise en action était vraiment pas du côté de Christophe.
Ça part dans combien de temps, Fix ?
Là, ils sont présentés un à un. Les 8 finalistes, ça va partir dans moins d'une minute.
On revient vers toi dans un instant parce qu'il se passe des choses ici sur la route du Tour à 14 km de l'arrivée. Fred, un homme seul en tête.
Oui, et ce n'est pas TJ Van Garderen, mais celui qui l'a contré en haut de la côte de la Duchère. Il est français, porte le maillot de l'équipe Sojasun. Julien Simon, 27 ans et demi, qui participe à sa troisième échappée depuis le départ du Tour. Eh bien, il a eu raison d'insister. Il vient d'attaquer en haut de la côte de la Duchère. Il est dans la descente et il compte une dizaine de secondes d'avance sur ses 15 anciens compagnons d'échappée.
Très bien. Allez, on repart à Charletti. La finale du 100 mètres, c'est dans un instant, Fix.
Avec donc Christophe Lemaître qui est dans cette finale au couloir numéro 3. Il aura donc Jimmy Vico à ses côtés quasiment au couloir numéro 5. Il me semble qu'il y a une petite inversion de couloir parce qu'on est un petit peu loin du départ. Mais par rapport à la start list qu'on nous a donné, bon, peu importe, on les reconnaîtra sans problème. Jimmy Vico et Christophe Lemaître, oui, qui sont côte à côte finalement. Ils ont décalé les couloirs. 4 pour Lemaître, 5 pour Jimmy Vico. Le silence est demandé ici à Charletti. C'est le grand moment, cette finale du 100 mètres. Christophe Lemaître va-t-il conserver son titre national sur 100 mètres, lui qui n'a plus été battu par un Français depuis plus de 4 ans sur 100 mètres. Pour la première fois depuis 4 ans, Christophe Lemaître est en réel danger pour cette finale du 100 mètres des championnats de France ici au stade Charletti. Christophe Lemaître qui se met comme d'habitude le dernier dans les starts. Les autres sont tous dans les starts, voilà, il se met à l'instant même dans les starts. Les 7 autres finalistes sont hyper concentrés. La suprématie du 100 mètres va se jouer dans quelques instants. Suprématie nationale, bien évidemment. Ah, il y a un concurrent qui lève la main.
Et bien, le départ va être repoussé d'une bonne minute.
On revient vers toi dans quelques instants. On revient vers toi dans un instant. Retour ici à 12 km 600 de l'arrivée, un seul homme en tête. Il est français, il se nomme Julien Simon, coureur de la formation Sojasun. Et il y a beaucoup à faire pour Julien Simon, même si, comme nous le disait tout à l'heure Cyril Guimard, il aurait peut-être dû attendre le sprint. Mais là, il a fait le trou, Fred.
On est dans les rues de Lyon, effectivement, à 12 km 500 de l'arrivée. Julien Simon a eu raison d'attaquer là-haut, comme on l'apprend dans les écoles de cyclisme, en haut de la côte de la Duchère, quand les muscles toxinent chez la concurrence, quand tout le monde a fait l'effort dans l'ascension. Il a attaqué en basculant et dans les faubourgs lyonnais, il compte 13 secondes d'avance sur ses anciens compagnons d'échappée qui tentent un à un de revenir sur lui, mais ils ne s'entendent absolument pas. On a vu Matteo Trentin, l'italien de l'équipe Omega Pharma, tenter sa chance, mais Julien Simon ne se retourne pas. Il a bien raison. On traverse la Sonde, me semble-t-il, à l'heure actuelle, en direction de la côte de la Croix-Rousse. Julien Simon, qui sait presque tout faire sur un vélo, qui a vécu une année 2012 extraordinaire. On en reparlera. 12 km de l'arrivée, 15 secondes d'avance pour Julien
Simon. Allez, l'athlée, on y va. Vico Lemaître fixe.
Paris Lyon de cette finale du 100 mètres des championnats de France. Christophe Lemaître au couloir 4, Jimmy Vico au couloir 5. Le duel va commencer dans quelques secondes. Pas de faux départ, c'est bon pour tout le monde, avec Lemaître qui prend un départ pas trop mauvais, mais Jimmy Vico est devant, c'est normal, c'est un meilleur partant. Oh, Jimmy Vico qui met avant Christophe Lemaître. Jimmy Vico, champion de France devant Lemaître, 9,96 et Christophe Lemaître qui est battu, qui termine deuxième. Jimmy Vico qui a été tout seul dans cette finale. Eh bien, ce qu'on avait vu en série, on pressentait ça. Eh bien, c'est la première fois que Christophe Lemaître, depuis plus de 4 ans, est battu par un Français sur la ligne droite. Jimmy Vico qui a été seul au monde aujourd'hui sur cette finale. Il n'y a eu vraiment pas aucune, une seule bagarre entre les deux. Il n'y a pas eu le duel qu'on attendait. Le mec a pris un départ moyen, comme d'habitude. Vico qui est parti comme une balle et qui n'a jamais lâché la tête de course. Bravo Jimmy Vico, le nouveau roi du 100 mètres en France.
Merci Fix, on écoutera la réaction de Jimmy Vico tout à l'heure. On revient ici à 11 km de l'arrivée maintenant avec deux Français dans le coup pour une première victoire française, sait-on jamais, sur les routes de cette grande boucle 2013. Le premier Français, c'est Julien Simon qui s'est échappé tout à l'heure et qui donne tout ce qu'il a dans les 10 derniers kilomètres de cette étape, Fred.
11 km de l'arrivée, très exactement. Julien Simon qui a attaqué il y a 4-5 km et effectivement Blaise Cadrier.
La moto RMC avec Georges Quirino.
Oui, dans la côte de la Croix-Rousse, effectivement, on a vu Blaise Cadrier partir au pied et derrière, pour l'instant, on a du mal à réagir. Il y a Yann Bakelands qui a tenté de partir en contre-attaque pour revenir sur les deux Français devant, mais on a du mal à s'organiser dans ce groupe de poursuivants et ça va sentir bon pour les Français peut-être, puisqu'on s'observe maintenant entre le groupe de poursuivants. Derrière, on passe à côté de la voiture de Nicolas Guillet, directeur sportif de Sojasun, il y a quelques instants. Il a ouvert un bouton de sa chemise, il s'adressait à Julien Simon qui est à l'avant de la course. Je peux vous dire qu'il soufflait Nicolas Guillet pour encourager son coureur, parce que Sojasun n'a jamais remporté une étape sur le Tour de France. Et évidemment, c'est un moment important pour l'équipe et on le sent dans l'attitude de son directeur sportif. On est dans l'ascension de cette côte de la Croix-Rouge.
L'ascension de la côte de la Croix-Rouge, Julien Simon qui donne tout ce qu'il a. Il a creusé les écarts, Fred. Les écarts sont quand même significatifs par rapport à un autre Français parti en contre-attaque.
23 secondes d'avance sur Blaise Cadrier, coureur du sud-ouest de l'équipe AG2R La Mondiale, âgé de 26 ans et demi, qui court après un compatriote. C'est de bonne guerre, ce n'est pas parce qu'on est Français qu'on ne va pas se courir après. Ils ont des intérêts totalement divergents, l'un chez Sojasun, Julien Simon, l'autre chez AG2R La Mondiale, Blaise Cadrier. Mais Cadrier, bouche grande ouverte, aura bien du mal à rentrer sur le Breton, le Rennais de l'équipe Sojasun, qui est en train d'aller chercher peut-être la plus grande victoire de sa carrière. Lui qui a déjà remporté le Grand Prix de Wallonie, qui a remporté des étapes sur le Tour de Catalogne, vainqueur du Grand Prix de Plumelec et du Tour du Finistère l'an passé. C'est un coureur qui avait le vent en poupe l'an passé, qui vit une saison 2013 un peu plus compliquée, mais il n'a pas baissé les bras, loin de là. On l'avait vu échapper en direction de Saint-Malo devant son club de supporters. Julien Simon à l'assaut de la victoire ici à Lyon.
Voilà, 10 km de l'arrivée pour Julien Simon, un Français en tête dans cette 14e étape du Tour de France.
RMC, les 10 derniers kilomètres.
Il va lui falloir résister maintenant au retour des autres échappés. Blaise Cadrier va être repris dans quelques quelques instants. Arthur Vichot est dans le coup également. Le troisième des quatre Français de cette échappée. Arthur Vichot qui est en quatrième position.
Il est à l'avant du groupe d'échappée, effectivement, qui est en train de revenir sur Blel Kadri, qui était intercalé, mais qui bute complètement là-haut, en haut de la côte de la Croix-Rousse. C'est Van Garderen qui a fait l'effort dans cette ultime ascension de la journée. L'Américain de BMC, effectivement, avec dans sa roue le champion de France, Arthur Vichot. Pendant ce temps-là, Julien Simon a lui basculé là-haut sur le plateau de la Croix-Rousse.
30 secondes d'avance, hein, 30 secondes d'avance sur le groupe Vichot.
Ça sent très bon. Il prend tous les risques, Julien Simon, notamment dans un virage à gauche à 90 degrés.
Une policière a bien failli se faire tailler le short.
Il est lancé vers un exploit, Julien Simon, et enfin peut-être une première victoire française sur ce Tour de France. Peut-être que les tricolores ne finiront pas Fanny. La dernière fois, c'était en 1999.
Voilà, Julien Simon, on le dit, coureur de la formation Sojasun, qui était notre invité l'autre soir dans l'intégrale Tour de France et qui nous disait qu'il était ambitieux sur ce Tour de France. Il se sentait bien. 22 secondes d'avance, hein, l'avance qui tend tout de même à se réduire un peu. Lucho, est-ce qu'on est porté comme ça par l'euphorie quand on est seul en tête dans une étape du Tour?
Oui, mais tu es dans le final, mais là, il faut pas que Julien Simon se retourne, surtout pas, qu'il fasse son effort, qu'il regarde bien devant lui. Et puis avec tout ce public lyonnais qui est ici présent, je crois que ça ne peut que l'enthousiasmer et puis aller jusqu'au bout. Il reste quand même 8,7 km hein, et il n'a que 22 secondes encore, d'avance. Et derrière, ça va certainement attaquer, ça va peut-être s'organiser. Il faut vraiment qu'il fasse le forcing s'il veut remporter cette étape.
Voilà, il relance évidemment Julien Simon. Il est informé des temps en temps réel. Derrière, eh bien, on est en file indienne pour tenter de revenir sur Julien Simon avec notamment trois autres Français. Kadri, le coureur de la formation AG2R, Arthur Vichot. Oula. Et puis, il y a un autre Français de la formation Europcar. Mais derrière, ça ne s'entend pas, mais ça roule très vite, hein, Fred, hein, malgré tout. Hein.
Oui, on essaye de ne pas laisser filer comme ça désespérément Julien Simon qui, effectivement, ne se retourne pas. Position idéale, les mains en bas du guidon, mais il a l'air de plafonner un petit peu. Ce qui peut l'avantager, c'est qu'effectivement, à l'arrière, on va peut-être procéder par à-coup avec des tentatives individuelles, des tentatives isolées, mais pour l'instant, ça continue de tourner. Du coup, l'avance passe sous les 20 secondes, 18 secondes d'avance pour Julien Simon, alors que c'est Cyril Gauthier qui mène le groupe d'échappée, le groupe de contre-attaque désormais, et c'est TJ Van Garderen qui relance à l'instant, suivi du basque de l'équipe Cofidis Egoïs Garcia. Cyril Gauthier est en troisième position. Ils sont en train d'unir leurs efforts, les contre-attaquants, derrière Julien Simon.
7 km 700 encore pour Julien Simon, le jeune coureur de la formation Sojasun, seul en tête. Le peloton maillot jaune, lui, est rétrogradé avec un retard de 6 minutes 33. Ça va donc se jouer entre Julien Simon et les autres. L'écart, est-ce que l'écart, on a des nouvelles
20 secondes.
Ça reste à peu près stable, Cyril. Que faut-il faire pour Julien Simon?
Pour l'instant, il faut qu'il gère son effort, non pas par rapport à l'écart, mais par rapport à ses seuils.
Ouais, ne pas se mettre dans le rouge, évidemment.
Hein. Ah oui, sinon il va sauter, mais j'ai eu le sentiment tout à l'heure qu'il retenait un petit peu dans la descente pour se refaire un petit peu les niveaux, et que maintenant qu'il est arrivé là sur le bord du Rhône, eh bien il embraye.
Voilà, il vient de traverser le Rhône à l'instant même avec un virage à droite, un peu en difficulté quand même dans les virages, hein, Fred.
Prise de risque maximum. C'est un bon descendeur, Julien Simon, mais c'est vrai qu'il est absolument sur un nuage. L'euphorie d'un final d'étape du Tour de France un samedi du mois de juillet, avec un monde incroyable sur le bord des routes, en particulier en ce moment dans les rues de l'agglomération lyonnaise. Il vient de tourner à droite après avoir traversé le Rhône, Julien Simon. Il est à l'abri des platanes le long du Rhône pendant 3 km 500 maintenant. Il va longer le long fleuve du Rhône avant de basculer à gauche à 3 km de l'arrivée en direction de Gerland. Il ne se retourne toujours pas. Derrière, l'Allemand Simon Geschke relance l'allure avec dans sa roue Arthur Vichot. Vichot, maillot de champion de France sur les épaules, qui ne relaie pas apparemment le coureur de la FDJ.fr.
Met
un point d'honneur à ne pas rouler sur son compatriote.
Eh oui, c'est étonnant, et peut-être.
De toute façon, la réussite va être liée à la coordination, à la coopération du groupe à l'arrière. Ouais. Si ça se regarde un petit peu, comme c'est le cas en ce moment, eh bien, il peut aller à l'arrivée. Sinon, si ça tourne derrière, il n'ira pas chercher la gagne.
Voilà, l'avance qui se réduit quand même, hein, plus que 12 secondes d'avance pour Julien Simon, alors qu'on est encore à 5 800 km très exactement de l'arrivée ici devant le stade Gerland. Julien Simon,
il y a pas mal de
lignes
droites, hein, Christophe aussi. Hein,
ils vont l'avoir en ligne de mire dans quelques temps.
Il commence à coincer un petit peu. Hein.
Ouais, 11 secondes, ça continue réduire. Fred, ça va être compliqué pour Julien Simon.
Ah oui, 11 secondes, c'est trop peu quand on voit la réaction de Lars Bak à l'instant, l'expérimenté coureur danois de l'équipe Lotto Bellisol, qui est relayé à l'avant du groupe de contre-attaque par le russe Pavel Bruch et Katyusha. Michael Albazini est encore en position d'attente, en troisième position. Mais ce que je vous disais il y a quelques instants se vérifie. On procède par à-coup dans ce groupe de contre-attaque. Ouais. Alors oui, on revient à 11 secondes, mais dans quelques secondes.
Parce que ça s'est relâché un petit peu.
Exactement, l'écart va faire l'élastique. Tout va être question de la tension de l'élastique. Deux coureurs sont en train de sortir. TJ Van Garderen, l'américain, 5e du Tour de France l'an passé, meilleur jeune. Il est accompagné de Blel Kadri à 5 km de l'arrivée. Julien Simon compte 15 secondes sur les deux contre-attaquants Van Garderen et Kadri.
Julien Simon va-t-il décrocher la première victoire d'étape française sur les routes de ce Tour de France 2013? Il possède encore une quinzaine de secondes d'avance sur le groupe de ses 17 anciens compagnons d'échappée. Derrière, ça tente de tous les côtés. Les Français sont là, les Français sont dans le coup. Vont-ils décrocher cette victoire d'étape? Julien Simon qui relance et qui ne se retourne toujours pas. Il fait le bon choix, Fred.
Le long du Rhône, dans une bordée de spectateurs incroyables. Julien Simon qui, ça y est, montre des premiers signes de faiblesse, des premiers signes de lassitude. À 4,5 km de l'arrivée, il vient de se retourner pour apercevoir derrière son épaule droite les silhouettes de TJ Van Garderen, l'américain de l'équipe BMC, avec dans sa roue Blel Kadri, le coureur d'AG2R La Mondiale, qui avait plafonné tout à l'heure en haut de la Croix-Rousse, qui avait montré ses limites. Ce n'est pas Kadri qui sera l'élément moteur de la contre-attaque. Le duel est lancé entre Julien Simon et TJ Van Garderen à un peu plus de 4 km de l'arrivée. Écart désormais à 15 secondes. La contre-attaque est en train de se reformer. Van Garderen et Kadri sont avalés par Talansky, Geschke, Gauthier, Rojas, Brut, Trentin l'Italien, Burgart l'Allemand et Arthur Vichot. Vous avez là tous les prétendants à la victoire ici au Stade Gerland.
4 km de l'arrivée, 15 secondes d'avance donc pour Julien Simon qui donne tout. Ça doit être terrible dans ces moments-là, Lucho, parce que là on a l'acide lactique qui monte dans les muscles, ça doit faire un mal de chien.
Ah ben oui, là, tout à fait, mais quand on voit tout le public et qu'il reste maintenant pratiquement 3 km, là c'est il y a le feu pour le compte derrière, ça se regarde, ça attaque. Alors quand ça attaque, bien sûr, l'avance se réduit automatiquement et après ça revient sur le problème qui est en train d'attaquer, ça se relâche un petit peu et malheureusement
on n'entend plus Lucho, on l'a perdu, on va le retrouver dans quelques instants. Nous sommes à un peu plus de 3,5 km de l'arrivée. Julien Simon est donc toujours en tête et l'écart stabilisé. On va retrouver la moto RMC qui se trouve justement derrière l'homme de tête.
Exactement, derrière les poursuivants plutôt, oui. Qui essaient de s'organiser pour revenir avec Simon Geschke, l'allemand de la formation Argos, qui est en train d'étirer ce groupe en file indienne. On a vu Arthur Vichot également sauter dans la roue du coureur de l'équipe Argos qui n'arrive pas à se faire la malle. Et on est en train de s'observer et il a 150 mètres d'avance environ, Julien Simon, qui vient de passer sous la banderole indiquant les trois derniers kilomètres, alors qu'il me semble que c'est Lars Bak qui tente de partir en solitaire, alors que TJ Van Garderen s'est relevé. Voilà, le double à l'instant, l'américain s'est relevé, il ne sera pas dans la bataille pour le final.
2 km 800 et 14 secondes d'avance pour Julien Simon qui donne tout, qui est à l'effort maximal avec la bouche grande ouverte. Il cherche l'oxygène, il cherche évidemment à oxygéner ses muscles. C'est terrible pour Julien Simon, il est porté par l'euphorie, porté par le public qui l'encourage sur le bord de la route, mais derrière évidemment ça revient vite. Fred,
Lars Bak, danois de l'équipe Lotto Bellisol, va peut-être condamner Julien Simon, mais il ne parvient pas à faire la différence à l'avant du groupe de contre-attaque et du coup Julien Simon peut encore nourrir de solides espoirs d'une première victoire de son équipe Sojasun et de lui-même évidemment sur le Tour de France. 11 secondes d'avance pour Julien Simon qui tire la langue. Lars Bak n'a pas réussi à faire le break à l'avant de la contre-attaque. C'est peut-être ce qui pourrait sauver Julien Simon. Un rythme relancé par l'allemand Jens Voigt à l'avant du groupe de contre-attaque. Julien Simon qui bascule là-bas avec la banderole 2 km de l'arrivée dans un virage à droite. Il relance en danseuse. Effort maximum pour le breton, le rennais de l'équipe Sojasun.
Plus que 10 secondes d'écart pour Julien Simon qui fait tout, qui donne tout dans les derniers hectomètres de cette étape. 10 secondes d'avance pour Julien Simon qui semble souffrir, qui tente de s'hydrater un petit peu maintenant. Mais derrière, évidemment, ça continue de revenir. Ils l'ont en ligne de mire maintenant.
Ouais, c'est Cyril, il est juste Gauthier, devant, hein. Cyril Gauthier, le breton de l'équipe Europcar, qui emmène dans sa roue Pavel Brut, le russe de l'équipe Katyusha, alors que Marcus Burgart, l'allemand, est parti lui aussi Oui, oh là là, un duo, un trio et même un quintet va se former en contre-attaque de Julien Simon. On a Marcus Burghardt et on a Cyril Gauthier qui chasse.
La moto RMC, juste derrière les hommes de tête, Georges.
Dans cette longue ligne droite où on peut apercevoir au bout la flamme rouge, Julien Simon qui se retourne, il va voir rentrer sur lui peut-être. Il n'a plus qu'une vingtaine de mètres d'avance sur Marcus Burghardt et Cyril Gauthier notamment. Il se retourne, le coureur de la formation, ce Jassonet, il est rattrapé à l'instant, Julien Simon, par Marcus Burghardt. Et il relance, il tente de résister, il se remet en danseuse, Julien Simon qui résiste, mais derrière lui c'est en train de rentrer. Voilà, maintenant c'est de l'intox désormais entre les hommes de tête qui sont en train de passer sous la flamme rouge.
La flamme rouge du dernier kilomètre.
Intégral Tour, la flamme rouge.
Julien Simon aura bien du mal à remporter cette étape. Il y a cru, il a eu raison d'y croire, mais désormais il est rattrapé et on va s'observer un petit peu maintenant pour savoir qui va pouvoir lancer le sprint de très loin, Fred.
Englouti, Julien Simon, par un homme, Michael Albazini, le Suisse, coureur expérimenté de l'équipe Orica Green Edge, bientôt 33 ans, qui a dans sa roue donc Julien Simon, l'Allemand Simon Geschke de l'équipe Argos. C'est là également, ils sont quatre à l'allemand à l'avant, Geschke, Albazini, Simon et Burghardt derrière, quelques miettes du reste de l'échappée. On aperçoit Yann Bakelands, l'ancien maillot jaune, qui revient, lui qui a pourtant connu des soucis gastriques, qui contre à l'instant Yann Bakelands, vainqueur de l'étape d'Ajaccio. Bakelands à 300 mètres de la ligne d'arrivée, qui va lancer le sprint avec dans sa roue Michael Albazini. On a Geschke, l'allemand, Julien Simon plafonne à la quatrième place, Rosero Aquid Rojas, l'espagnol de la Movistar, est en embuscade à la cinquième place. Albazini lance à 200 mètres de la ligne d'arrivée, Albazini, le suisse de l'équipe Orica, qui va peut-être aller remporter une nouvelle victoire pour sa formation Orica Green Edge. Et il va être débordé par l'italien Matteo Trentin de l'équipe Omega Pharma Quick Step, sorti de nulle part. On ne l'avait quasiment pas mentionné de la journée, cet italien Trentin, coéquipier de Mark Cavendish chez Omega Pharma. Et bien hier il a participé au grand coup de bordure en direction de Saint-Amand-Montrond. Et après la victoire de Tony Martin, après les deux succès de Mark Cavendish, l'italien Trentin vient apporter à la formation belge Omega Pharma de Sylvain Chavanel sa quatrième victoire depuis le début de ce Tour de France. 1 Trentin l'italien, 2 Albazini le suisse, 3 Talinski, 4 Rojas l'espagnol, 5e Pavel Brut le russe. Les Français se sont troués, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé.
Évidemment, ce n'est pas faute d'avoir essayé, notamment pour Julien Simon qui sera évidemment le grand battu aujourd'hui, le grand malchanceux, le grand triste, le plus triste de tout ce peloton, lui qui a résisté mais qui s'est fait reprendre à quelques hectomètres de l'arrivée. Julien Simon qui va terminer l'étape à la 11e place, le premier français, c'est Arthur Vichot, le champion de France. Tiens, on est avec Julien Simon justement derrière la ligne d'arrivée avec Pierre-Yves.
C'est un match déçu, hein. Mais bon, c'est comme ça, hein. Qui ne tente à rien n'a rien. Je voulais pas attendre le sprint parce que je savais que c'est trop aléatoire, même si j'ai une pointe de vitesse. Voilà, j'ai tenté, j'étais pas trop mal dans l'avant-dernier. J'ai contré, et puis après j'ai fait tout les 15 derniers. Puis je croyais même que je pouvais encore gagner quand Albazini vient, il me rattrape et je me dis putain, si on arrive à deux, j'ai réussi à me mettre dans sa roue. Je pouvais encore le battre, mais là toute la troupe arrive après, alors voilà, c'est comme ça.
Vous gardez comme quelques forces au cas où des coureurs arrivaient sur vous?
J'ai pas calculé, mais il m'en restait un tout petit peu quand même. Mais bon, voilà. C'est déçu, mais bon, j'ai tenté, je suis content.
On vous a vu à l'œuvre dans les 15 derniers kilomètres, tout seul. Et on s'est dit d'ailleurs que les autres coureurs français vous avez peut-être laissé partir aussi.
C'était pas dans la roue quand je suis parti. Hein. Ouais, parce que là. Mais bon, après, on s'était dit que si on essayait peut-être pas de se rouler dessus, mais après, voilà, je pense que si derrière, je sais pas ce qui s'est passé, mais après, c'est humain pour une victoire d'étape sur le tour. Bon, voilà quoi. Ouais, je suis déçu, c'est tout ce que je peux dire. Merci.
Déception de Julien Simon, évidemment. Ouais. Mais voilà, qui nous a répondu rapidement derrière la ligne. Avec d'autres, tiens, Cyril Gauthier qui est là également, on va essayer de s'approcher un petit peu de lui. Il a tenté sa chance également. Cyril, un petit mot, Cyril. Cyril, un petit mot. On imagine qu'il y a de la déception là, tout comme pour comme Julien Simon qu'on voyait il y a un instant.
Oui, voilà, moi je parle pour moi, je parle pas pour Julien, hein. je suis déçu. Voilà, j'étais devant, je visais la victoire, je l'ai pas eu encore une fois. Je sais pas gagner quoi.
La déception là aussi, vous voyez, pour Cyril Gauthier qui s'en va rapidement avec ce mot, je ne sais pas gagner.
Qu'est-ce que c'est fort.
C'est fort. Hein.
Qu'est-ce que c'est fort et c'est difficile de le contredire, Cyril Gauthier. C'est un super coureur qui avait explosé en devenant champion d'Europe espoir en Italie. Mais depuis, c'est vrai qu'il est tout le temps à l'attaque et il ne parvient pas à décrocher de grands succès. Il avait remporté le Tour du Finistère, me semble-t-il, mais il a le potentiel pour faire beaucoup mieux. Julien Simon est passé tout près de la victoire, Cyril Gauthier aussi. Et finalement, aujourd'hui, à Lyon, c'est la victoire d'un grégario, Matteo Trentin, 23 ans et demi, bientôt 24, ce sera dans un mois en août. Matteo Trentin, italien de l'équipe Omega Pharma Quickstep, qui a été embauché au sein de la formation managée par Patrick Lefebvre pour épauler Marc Cavendish, ce qu'il fait à merveille. Et tenez-vous bien, professionnel depuis l'an passé, il remporte aujourd'hui à Lyon sur la 14e étape du Tour de France sa première victoire chez les professionnels. Quelle entrée en matière. Il ne peut pas faire beaucoup mieux. Matteo Trentin qui a eu un bon de sortie puisqu'aujourd'hui les sprinteurs avaient rendu la main. Il a eu raison d'en profiter. Matteo Trentin qui devance sur la ligne le Suisse Albasini et l'Américain Talansky.
Alors que les chasses patates arrivent, les deux chasses patates.
Non, ce sont des largués de l'échappée.
Ah, c'est David Millard.
Et Jens Voigt qui vont en terminer avec plus de 4 minutes 30. Ils étaient un peu courts.
Les deux anciens,
36 et 41 ans. La moyenne de ce duo est de plus de 38 ans. Et c'est un peu normal qu'il termine à 4 minutes 30. Le peloton, lui, va arriver dans 2 minutes. Et Marc Cavendish va, je l'imagine, lever les bras sur la ligne d'arrivée pour manifester sa joie. Cavendish qui a l'habitude de récolter les lauriers au sein de cette équipe Omega Pharma, mais qui sait remercier ses équipiers, que ce soit dans des embrassades, dans des sourires, mais également dans des cadeaux. Quel plaisir ça va être pour le sprinter avec déjà 25 étapes dans son escarcelle à 28 ans. Quel plaisir ça va être pour lui, le finisseur de l'équipe Omega Pharma, de savoir que c'est son Gregario, un équipier modèle qui apparaît dans la lumière aujourd'hui. Victoire de Trentin, ouais. L'italien.
Alors on est évidemment ravis pour Trentin, mais on est très déçus, il faut bien le dire aujourd'hui, parce que Julien Simon méritait cette victoire d'étape. Elle lui a échappé pour très peu, Cyril. C'est vrai que c'est dommage pour Julien, mais résister à 17 hommes sur 15 km, c'est difficile, hein. Surtout après un long raid comme ils l'ont fait.
Bien, c'est difficile, d'autant qu'après la dernière ascension, parce qu'il est parti dans l'avant-dernière difficulté à 15 km de l'arrivée, il y avait beaucoup de périodes, enfin beaucoup de kilomètres complètement plats avec le point de mire, surtout donc le long du Rhône pour arriver jusqu'ici, là au stade de Gerland, que les footballeurs connaissent bien. Cette ligne droite était vraiment très 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 longue, et surtout s'il y avait eu encore de nombreux virages, sur les virages on roule à la même vitesse que les autres, et puis c'est à chaque fois deux secondes, trois secondes de récupération pendant le virage. Ouais. Là, Cyril, c'était une grande ligne droite et on pouvait rien y faire.
Cyril, Stéphane Hulot, le manager de la formation Sagesse Solutia, qui arrive.
On avait prémédité ce contre en haut de l'avant-dernière difficulté. Il avait les jambes de toute manière. Après, la crainte qu'on avait, c'était effectivement les équipes étaient représentées à plusieurs coureurs comme BMC, voire même Movistar, mais on a vu qu'ils étaient tous un petit peu limites. C'est le final, c'est comme ça. Il aurait fallu peut-être une ligne droite un peu moins rectiligne, mais le vent était favorable. Je pense que Julien était au bout de lui-même et il n'y a rien à se reprocher. C'est une super semaine, c'est un super tour de Sojasen et de tous les coureurs, parce que je refuse systématiquement l'idée de montrer le maillot, d'animateur. On est là pour gagner et voilà, aujourd'hui on le prouve. On n'a pas forcément été toujours estimé à notre juste valeur. Et là encore une fois, on se bat avec nos armes, on se bat avec notre volonté. C'est une construction qui existe depuis 10 ans et voilà, ça aurait été vraiment un magnifique résultat, mais on n'est pas fini et on va encore recommencer.
Stéphane Hulot, le manager de la formation Sagesse au micro de Pierre-Yves Leroux.